Bien, bonjour, bonjour à tous. Rapidement, un petit accueil de principe. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France. Alors, vous êtes présent, mais comme il y a plein de têtes connues dans la salle, vous êtes présent dans un établissement qui a pour vocation de rapprocher nos concitoyens d'un certain nombre de thématiques scientifiques. Cet établissement a pris l'habitude depuis déjà de nombreuses années d'essayer d'aborder les questions de société qui se présentent à nous dans la place des sciences, des techniques et de leur développement sous trois types d'approches. La première, elle correspond à ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est contribuer par vos réflexions, les échanges dans cette salle, contribuer à un regard sur les thèmes scientifiques. Dans cette salle, nous avons fait, en termes de journée thématique, un certain nombre de points sur des questions aussi diverses que l'immigration, la laïcité, les OGM. Donc vous voyez que les sciences de l'homme et de la société, comme les sciences dites dures, sont présentes de manière assez permanente. Le deuxième volet sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est un volet d'information grand public par des conférences et des débats qui ont lieu en soirée. Et le dernier volet correspond à des outils de médiation. Les plus connus d'entre eux sont les expositions et les animations, mais également des outils d'animation nouveaux que les technologies nouvelles permettent, et en particulier des débats à distance via Internet, les futurs célébrissimes webinaires que Yves Natiempo, ici présent, est en train de développer avec beaucoup de réussite. Donc l'important pour notre établissement, c'est de pouvoir fonder son action sur tout à la fois bien sûr des contenus scientifiques documentés, validés, mais également en permettant de créer les éléments d'un débat. Alors concernant les nanotechnologies au sens large du terme, les nanosciences, il y a une éruption qui est relativement récente dans les médias. Il y a beaucoup d'interrogations. Mes collègues du Centre de culture scientifique de Grenoble ont eu beaucoup de difficultés à présenter l'exposition qu'ils ont produite voici 2 ans, puisque l'inauguration a fait l'objet d'une manifestation assez importante. Et cette manifestation, elle était en partie motivée parce que l'exposition en question, très, très bien structurée du point de vue scientifique et technique, avait un tout petit peu oublié le débat de société. Et je crois que les manifestants d'il y a 2 ans venaient marquer aussi leur mécontentement sur le fait que, bien sûr, présenter des éléments scientifiques, technologiques, c'est primordial, mais effectivement, si le débat n'est pas là, il y a forcément carence dans nos démocraties locales. Donc l'espace Mendès France est en train d'engager une réflexion à travers les journées thématiques auxquelles vous allez participer aujourd'hui et les suivantes, mais également dans la mise en place d'une exposition que nous souhaitons tout à la fois informative du point de vue des sciences et des techniques, mais également qui permettent à tout un chacun d'essayer de se faire une meilleure idée de l'avenir de ces avancées scientifiques et techniques. Voilà, j'en finirai là. Simplement, donc, vous remercier de votre présence, remercier Yves Senatiempo et Anne Bonnefoy d'avoir contribué à la coordination de tout ça. Saluer la présence de Madame la Première Adjointe représentant le maire de Poitiers. Donc merci Christine d'être là. L'école de l'ADN aussi présente. Et puis dans la salle, un certain nombre d'entre vous qui connaissaient bien la maison et qui connaissaient la règle du jeu donc par rapport au débat. Voilà, merci. Yves, je te laisse la parole. Okay.
Merci. Donc, Jean-Claude Desoyers et moi-même allons vous accompagner tout au long de la journée. Et nous allons être les modérateurs, les gardiens du temps, si possible. C'est pour ça qu'on presse un peu l'allure pour démarrer dans les temps. Donc, mon premier message sera pour tous les intervenants en vous demandant de respecter, si possible, les horaires. Et j'en profite aussi pour vous remercier d'être venus pour certains de loin. Donc nous avons des gens qui viennent de Londres. Donc c'est très aimable, mais c'est facile, paradoxalement, de venir à Londres, de Londres à Poitiers par une compagnie low cost que je ne citerai pas. Je remercie en particulier Louis Laurent qui va intervenir en premier parce qu'il a à l'heure actuelle une grosse charge. Donc peut-être il pourra nous dire juste quelques mots au démarrage de sa présentation. Pour moi, c'est un peu un contraste. Quelqu'un qui est en train de préparer l'implantation d'une maxi-structure autour de sa clé et qui vient de nous parler de nanotechnologie. J'ai trouvé ça assez marrant, mais enfin, Louis, il faudra juste nous en dire quelques mots tout à l'heure. Sachant que certains d'entre vous, vous avez des obligations, donc Louis doit repartir, d'autres arriveront un peu plus tard dans la journée. Grégory Abadias qui doit intervenir par faire un cours tout de suite après. William Dab qui vient ici, fait une conférence après à l'ESIP. Donc vous voyez que ça va être un peu fluctuant dans la journée, mais c'est très bien, c'est comme ça. Donc on vous remercie beaucoup. Évidemment, je remercie l'école de l'ADN et l'Espace Mendès France d'avoir co-organisé tout le cycle. Je vous rappelle qu'il y a une journée le 19 mai qui suivra celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'arrière-plan scientifique, des outils technologiques qui ont abouti au développement des nanotechnologies, tandis que la prochaine fois, nous parlerons surtout des applications. Et enfin, je vous rappelle que en fin d'année, tout d'abord, il y aura l'exposition qui sera inaugurée lors de la fête de la science. Et enfin, le 15 décembre, je n'ai plus le jour en tête exactement, il y aura une journée sur les nanotechnologies avec seulement les aspects sociétaux. Anne, c'est bien le 15 décembre ? C'est ça. Voilà. Jean-Claude, est-ce que tu as un mot en démarrage ?
Non, il a tout dit, donc je n'ai rien à rajouter. Je vous souhaite une bonne journée. On va se voir toute la journée.
Voilà, donc nous allons commencer par la présentation de Louis Laurent. Traditionnellement, on a toujours une présentation générale en début de journée qui remet le sujet à sa place. Et donc Louis, je crois, a prévu quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir Louis Laurent. Nos chemins se sont croisés il y a 10 ans. Il était directeur du département de sciences de la matière au CEA. Et moi-même, j'étais avec mon ami Mustapha Belksir en train de cogiter à une création d'entreprise. Et c'est à la suite d'une présentation des personnes du laboratoire et de l'environnement de Louis Laurent que nous sommes partis sur une création d'entreprise en exploitant une technologie du CEA proche des nanotechnologies. Et ce qui a fait que finalement, personnellement, je me suis intéressé au sujet. Sinon, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. C'est assez bizarre quelquefois. Donc depuis, eh bien, chacun a évolué de son côté. Louis Laurent a pris des fonctions ensuite à l'Agence nationale de la recherche. Et aujourd'hui, il pilote vraiment un très très gros projet dont il va vous dire quelques mots. C'est l'implantation d'une très grosse structure dans le cadre du plan campus. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui a écrit sur les nanotechnologies, qui travaille beaucoup à la vulgarisation et au passage vers le public de ces notions. Donc il y a un de ses livres qui est là en présentation et vient d'en sortir un autre qui s'appelle « Comment fonctionnent les nanomachines ?» qui est un bouquin un peu plus gros, mais qui est apparemment aussi à destination du grand public. Donc merci Louis d'être venu et donc de nous faire une présentation. Le titre s'appelle « Les nanotechnologies, risques, bénéfices et imaginaires » puisqu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'imaginaires.
Merci de m'avoir invité. Donc, à la demande de Fiona Tiempo, je veux dire quelques mots d'abord sur le projet Campus de Saclay, si vous voulez, très, très, très rapidement. Ça s'inscrit dans la mouvance de l'opération Campus qui a été lancée par le ministère de la Recherche, qui consistait à faire de l'ordre d'une dizaine de grands campus au niveau national. Donc Saclay est l'un de ceux-ci. Donc c'est un ensemble qui regroupe déjà 10% de la recherche française, même avant l'opération Campus. Il y a pas mal d'établissements sur place. Donc à la fin, on fera, ça dépend des disciplines, mais entre 15 et 20%, il y aura à peu près 12 000 chercheurs. Et c'est une opération à la fois immobilière, hein, parce qu'il y a une dizaine en gros d'établissements qui vont venir sur place, dont pas mal de grandes écoles, hein, comme l'École des Mines, Télécom, l'ENSAE, etc. Et c'est aussi une opération de fonctionnement, de trouver des moyens de fonctionner en commun au niveau scientifique. Parce que Saclay, ce n'est pas nouveau, hein, ça date de 50 ans, les premières implantations. L'idée, c'est de faire quelque chose qui ressemble à un des grands campus mondiaux. Enfin, il ne suffira pas de l'autoproclamer, bien sûr, il faudra que la reconnaissance vienne de l'extérieur. Donc, il y a pas mal de réflexions sur l'organisation de la recherche, de l'enseignement, bien sûr, et de l'innovation, parce qu'on regarde les trois côtés du fameux triangle de la recherche en même temps, donc avec bon, des entreprises qui vont également venir nous rejoindre. Il y en a déjà deux qui sont prêts pour faire aussi à la fois un pôle scientifique et un cluster d'innovation. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va passer au sujet proprement dit. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui me fascine, je dirais, tant du point de vue scientifique, enfin, c'était dans ma vie antérieure, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais que du point de vue des résonances qu'il a avec l'imaginaire et la façon dont le public, mais aussi les chercheurs, finalement, appréhendent les sciences. Alors, je vais d'abord, comme le public est un peu varié, c'était un peu prévu, rappeler ce que c'est, donc là, je m'excuse par avance auprès de ceux qui le savent déjà. Quoi qu'il n'y a pas de définition agréée, donc chacun a la sienne en fait. C'est le seul point commun, je dirais, c'est de définir ça à partir d'une échelle de longueur, hein, contrairement à d'autres disciplines qui sont définies à partir d'un champ de la connaissance ou de méthode. Nanoscience et nanotechnologie, c'est avant tout, ça s'est construit autour d'une échelle de longueur. Donc ici, c'est un diagramme traditionnel qui existe sous des formes diverses et variées, donc non, c'est raté, voilà. Donc vous avez des objets ici de la vie de tous les jours. Quand on divise par 1000, on arrive au domaine du millimètre, le monde des insectes. Encore par 1000, c'est le monde des microns. Alors, par exemple, un cheveu, ça dépend du cheveu, ça fait entre 50 et 100 microns. Un globule rouge, ça fait quelques microns. Voilà. C'est la taille finalement des cellules dans le corps ou des bactéries. Voilà. Et quand on divise encore par 1000, on arrive au nanomètre, hein, donc, qui est le milliardième de mètre. Donc c'est la taille des grosses macromolécules ou la taille maintenant des transistors dans les circuits intégrés. Donc les nanosciences, les nanotechnologies, c'est l'art de comprendre, d'observer, de manipuler ou d'utiliser les propriétés de la matière à cette échelle de longueur. Donc pour fixer les idées, vous ferez une petite règle de 3 chez vous. Si votre ongle pousse de 3 mm par mois, ça veut dire qu'il pousse d'un nanomètre par seconde. Hein. C'est pour vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas très grand. Voilà, alors point important aussi, je crois que ça reviendra implicitement dans la journée, ce petit arc-en-ciel ici, ça représente la longueur d'onde de la lumière qui sert donc à observer les objets avec les méthodes traditionnelles de la microscopie. Ça veut dire que quand on est en dessous, on ne peut pas voir les objets comme on les voit quand ils sont plus grands, parce que la lumière n'est pas une sonde assez précise, donc on est obligé d'utiliser d'autres techniques. Enfin, de tricher avec l'optique, on y arrive, mais aussi d'utiliser la microscopie électronique qui a été inventée dans les années 30 ou d'autres types de microscopie qui vous seront présentés aujourd'hui. Voilà, donc c'est un monde aussi qui est un peu mystérieux parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux comme on verrait donc les objets plus classiques. Voilà, toutes les images qu'on vous montrera sont des images reconstruites avec des ordinateurs. Voilà, c'est pas des photographies au sens classique du terme. Alors, on pourrait dire aussi quand même, si on est un peu critique, c'est un peu un fourre-tout quand même, parce qu'on aurait pu imaginer il y a un siècle les millitechnologies, hein, je vous aurais présenté le monde fascinant des millitechnologies avec des montres, hein, les merveilleux objets qu'on peut faire en utilisant l'échelle du millimètre, des transistors, dire voilà il y a des millimatériaux comme les graviers, vous dire il y a des choses, on fait des armes, hein, il y a des choses dangereuses, les chevrotines c'est des millitechnologies. Ça sert à augmenter l'être humain. On aurait pu aussi construire un discours autour des millitechnologies en assemblant des techniques extrêmement variées ou des choses qui ont comme point commun le millimètre. Ben, les nanotechnologies, ça a des points communs avec ça, si vous voulez. On assemble des choses extrêmement variées qui ont comme point commun cette échelle de longueur. Voilà. Bon, ça, c'est un aspect un peu critique, mais malgré tout, je vais vous montrer que ça a une plus-value, hein, de faire ça. C'est pas juste une lubie. Voilà, mais faut aussi avoir cette image en tête. Ça explique parfois que les débats soient un peu complexes parce qu'on parle de choses extrêmement hétéroclites. Voilà. Alors, ces objets-là, en fait, je veux dire aussi comment ils se fabriquent. Hein, donc, en fait, il y a trois grandes modalités par lesquelles ils sont fabriqués. La première, c'est la microélectronique ou la nanoélectronique maintenant. Donc, c'est des techniques qui ont été développées à partir des années 60, qui servent donc à intégrer des objets sur des matériaux, comme du silicium, on peut le faire sur d'autres matériaux aussi. Donc, avec des techniques comme la gravure, on peut déposer des matériaux, modifier leur composition chimique, etc. Il y en arrive donc avec des techniques qui ressemblent à la lithographie, hein, du Moyen-Âge, à fabriquer des objets qui ont des finesses de traits qui se mesurent en dizaines de nanomètres maintenant. Donc c'est des techniques, je dirais, qui sont un peu extrapolées de nos techniques de machine-outils à notre échelle, simplement en usine, non pas avec des fraiseuses, mais avec des faisceaux de particules ou de la lumière, et on arrive à fabriquer des objets qui s'apparentent aux objets industriels, simplement, ils se mesurent en dizaines de nanomètres. Alors, autre chose que ça, vous faites ça tous les jours vous-même dans votre salle de bain, c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. Toutes les molécules ont tendance à, souvent à s'auto-organiser dans des schémas donnés, hein, un peu à l'image des gouttes dans un nuage. L'eau se condense pour faire des petites gouttelettes, hein, l'eau s'auto-organise en gouttelettes ou la neige en flocons. Donc, la matière fait ça tout le temps, donc c'est vrai aussi pour les molécules qui composent le savon, qui s'auto-assemblent dans l'eau, hein, en agrégat qui ressemble un petit peu à ça. Donc ça sert souvent à faire aussi des nano-objets. Simplement, on laisse le hasard se charger de l'assemblage et on fait donc plutôt des matériaux. Ici, on a des objets organisés comme des machines où tout est parfaitement positionné. Ici, on laisse le hasard et on fait plutôt des matériaux. Et enfin, vous avez le vivant qui fabrique des nanostructures. Alors, c'est plus que de l'auto-organisation parce qu'on fabrique des objets parfaitement positionnés entre eux qui assurent des fonctions. Bon, il y a aussi de l'information sur ces objets qui est donc encodée dans l'ADN, mais vous avez aussi une partie hasard auto-assemblage. C'est assez complexe, mais donc le vivant, c'est sûrement le système le plus efficace, l'évolution y a veillé. Il utilise à fond, contrairement aux autres modalités, les lois de la physique de l'infiniment petit. Et donc c'est un système qui sert, ça assemble aussi des nanobjets et on s'en sert dans les biotechnologies. On utilise des êtres vivants comme des bactéries donc pour assembler plutôt des molécules. Voilà. Alors je parle de concept nano. Alors ça a quand même une grande plus-value, donc ça n'est pas qu'un fourre-tout comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est donc quelque chose finalement qui fait le pont entre des nanomatériaux, hein, des matériaux où il y a des choses structurelle à l'échelle nanométrique, des choses qui sont fabriquées par l'homme à l'échelle nanométrique, hein, comme des circuits intégrés, mais ça peut être d'autres systèmes, comme des cellules solaires, et puis le vivant. Et en fait, c'est construit une espèce de métadiscipline, je dirais, qui, autour de concepts communs, a permis d'avancer. Par exemple, le concept d'objet, de molécule, d'objet unique, de moteur, parce qu'il y a des moteurs, on peut fabriquer des petits moteurs, il y a aussi des moteurs biologiques, il est intéressant de comparer les deux, voire de les hybrider. Il y a aussi des méthodes de mesure communes, hein, qu'on vous en présentera certaines dans la journée. Finalement, on utilise des techniques issues de la physique pour mesurer des systèmes biologiques, pour mesurer des matériaux. Donc ça a permis finalement de faire apparaître de nouvelles idées un petit peu aux frontières de ces disciplines. Donc ça a eu un rôle très, très intéressant. Donc même si ce n'est pas une discipline, cette unification autour d'une échelle de longueur a été très fructueuse. Ce qui est possible parce que de nouvelles propriétés existent à l'échelle nanométrique, dire sur qui permettent à la matière de s'auto-assembler, par exemple, ou dans certains cas, à des effets quantiques d'apparaître, ce qui n'existe pas dans le monde millimétrique, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment une millitechnologie parce qu'il n'y a pas de plus-value à rassembler tout ça. Par contre, en nanotechnologie, oui, il y a des concepts, des phénomènes physiques qui sont communs aux trois domaines. Voilà. Alors, je dirais même, je crois qu'on vous en parlera aujourd'hui, là je donne un point de vue personnel, c'est quelque chose, on a vraiment parlé de nanotechnologie, bon, le mot date des années 70, mais on en a vraiment parlé à la fin des années 90, et puis les chercheurs, mais aussi les agences de financement, enfin j'y ai participé, des politiques ont un peu reconstruit ce concept nano, et on peut même réécrire une histoire rétroactive, c'est-à-dire dire finalement, ce que je vous ai raconté, on le fait depuis, ben, à peu près depuis qu'on a commencé à penser très sérieusement que la matière était composée d'atomes. Hein. C'est dans les années 1900 où on a commencé à voir c'était avant une idée issue des chimistes, mais finalement c'est devenu quelque chose de palpable dans les années 1900. Microscope électronique dans les années 1930. Puis quelques dates jalons comme la structure de l'ADN, mais également beaucoup d'autres événements en biologie moléculaire qui ont fait prendre conscience finalement du rôle de l'échelle nanométrique dans le fonctionnement du vivant. Bon, un événement fondateur qui est le discours du prix Nobel Richard Feynman, qui est très connu, qu'on cite souvent donc, en 1959, où il a un peu vanté les mérites finalement de toutes ces technologies qui permettraient un jour de faire des choses à échelle nanométrique, de faire tenir une encyclopédie sur une tête d'épingle, etc. Il a même fini son discours par deux prix en disant « je donnerai un prix à celui qui me fera un moteur, je crois que c'était d'un 64e de pouce de côté, et puis à quelqu'un qui écrira un livre sur telle dimension d'échelle. » Donc le prix sur le moteur a été gagné en fait simplement l'année suivante, parce qu'il n'a pas mis la barre assez haute finalement. Par contre, celui sur le livre écrit tout petit, il a été gagné qu'en 1986, justement parce qu'on a inventé à ce moment-là le microscope à force atomique. Voilà. On l'a pompé, il y a eu différentes inventions sur les nanotubes, les microscopes à effet tunnel, etc. Et puis des craintes aussi, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a fait que finalement, on peut construire, on peut écrire un livre d'histoire des nanotechnologies, même si au début, les gens ne se disaient pas, oh là là, on participe à la grande aventure des nanotechnologies. On peut aussi, on peut reconstruire une histoire tout à fait intéressante. Voilà. Alors ça, c'était, je dirais, c'est plutôt l'avis des scientifiques. Alors, l'avis industriel est un peu différent, même si c'est cohérent avec le précédent. Il y a beaucoup de procédés qui préexistaient indépendamment de ce que j'appelle la démarche nano. Par exemple, le fait d'incorporer du noir de carbone, hein, c'est des petits agrégats de carbone dans le caoutchouc, ça date de 1900. Beaucoup de procédés, je dirais, sur les matériaux, les cosmétiques, l'agroalimentaire, font appel, je dirais, à l'époque involontairement, même si on utilisait ce procédé. C'est quelque chose qui est assez ancien. Donc, M. Jourdain faisait de la prose, beaucoup d'industriels faisaient des nanosciences, surtout des nanotechnologies, sans le savoir, bon, y compris des maîtres verriers au Moyen-Âge ou même avant. Voilà. Bon. Par contre, y a ce qu'on fait actuellement, c'est comme on comprend mieux, on mesure, on réfléchit, on modélise, on intègre beaucoup sciemment maintenant donc c'est des procédés, cette démarche, dans des nouveaux produits bon, qui sont liés à l'environnement, à l'énergie également, dans la médecine maintenant, où on fait ces choses-là, je veux dire, en sachant exactement comment et pourquoi. Voilà. Et il y a une deuxième type d'industrie, alors qui ont celle qui a une feuille de route. Là, on peut vraiment, si on devait parler d'industrie nano, ça serait plutôt celle-là. Ce sont des industries, finalement, où on fait de plus en plus petit. Donc, bah, vous connaissez celle de l'informatique, hein, où on fait des ordinateurs de plus en plus puissants parce que les transistors sont de plus en plus petits, ou les disques de stockage qui contiennent de plus en plus d'informations. Mais c'est également vrai pour la mécanique, la fluidique, qui ont tendance à se rétrécir de plus en plus, pas toujours à l'échelle nano, mais on fait des objets de plus en plus petits. Voilà. Et ces industries bon, qui ont émergé dans les années 60 ont un très fort impact, surtout sur les applications. Les technologies de l'information et de la communication ont changé beaucoup de choses. Voilà, je vous donne juste un exemple. Alors pour changer un petit peu, je ne veux pas vous parler de microprocesseurs et de transistors. Je veux parler de la mémoire. Moi, je trouve que c'est une question très, très intéressante. Dans les années 90, on disait « chouette, mon ordinateur a 10 mégas ». Et à l'époque, on mettait ou 100 mégas, enfin ça faisait un mètre de livre, 5 minutes de vidéo ou 2 heures de son. Voilà. Donc dans les années 2005, c'était plutôt 100 gigas. Donc on a dans les disques durs des kilomètres de livres, des heures de vidéo et des mois de son. Voilà. Si on extrapole cette progression, je dirais sans, pas trop quand même, on commence à arriver à des disques qui font des téraoctets, hein, et avec 100 km de livres, un an de vidéo et pratiquement la bande son de toute une vie. Hein, on n'en est pas très loin si on comprime un petit peu. Voilà. Donc, si vous voulez, ces techniques de miniaturisation ont permis de faire des choses incroyables, mais aussi de développer de nouveaux usages assez importants, parce que le fait d'avoir de la mémoire permet de faire des choses insoupçonnées avant. Je vous parle de la mémoire, un peu de science-fiction, de la bande-son de toute une vie. Ça veut dire qu'on pourrait très bien vendre une petite boîte que vous donnez à un bébé, et puis ça s'enregistre toute sa vie, finalement. J'enregistre la bande-son, je ne sais pas à quoi ça sert, et si ça se vendrait. Peut-être un bon système de recherche aussi pour retrouver des événements dans la vie, mais on peut imaginer de nouveaux usages qui n'étaient pas possibles avant. Voilà. Bon, ça pose aussi des questions qui deviennent d'actualité sur la pérennité des données de la mémoire, parce qu'on ne peut pas forcément tout garder pour toujours, et ce sont des formats qui se prêtent moins à la préservation des données que la gravure sur le marbre. Voilà. Alors, pourquoi faire? Donc ça, c'était une introduction, qu'est-ce que c'est? Donc, pourquoi faire? Alors, si vous lisez les journaux, on vous demande souvent, alors, c'est la nouvelle révolution industrielle, est-ce que ça va tout changer, etc. Donc, ça s'inscrit dans un concept plus général, finalement, où il y a eu des grands cycles, hein, finalement, qui ont un petit peu changé même la société. Hein. Bon, ça peut commencer beaucoup plus tôt avec l'agriculture et la sédentarisation. Après, il y a eu l'imprimerie. Là, donc, on démarre un peu à la révolution industrielle. Après, il y a eu une autre révolution avec l'électricité, la chimie et la moteur. Et les moteurs, donc, la première révolution, ça a plutôt créé l'industrie, les villes, hein, la classe ouvrière. Ici, ça a été l'époque de l'équipement des foyers, donc ça a terminé aux années 60 avec les 30 glorieuses, donc ça a été le règne de l'électricité, de la chimie. Donc maintenant, on n'est plus dans le domaine du numérique, hein, qui tire les évolutions de la société. Bon, puis après, on verra, là je mets un point d'interrogation, ça se sait qu'après, si vous voulez. Donc pour certains, est-ce que les nanotechnologies ne sont pas finalement la révolution qui vient? Voilà. Voilà. Alors je vous dirais non, hein, tout simplement, parce que ça n'est pas exactement la même chose. C'est plutôt une, ce qu'on appelle, c'est une échelle de longueur. Donc c'est quelque chose qui concerne un petit peu toutes les activités. Ça n'est pas une industrie nano qui va émerger et tirer le reste, remplacer les autres. Alors voilà, ça c'est une étude qui a été faite donc, par le, dans un réseau européen qui s'appelle Prime. Alors là, c'est par un laboratoire qui est à Paris-Est, à Marne-la-Vallée. Donc ils ont étudié les 1200 plus grosses firmes de recherche dans le monde, hein, celles qui font de la recherche, enfin identifiées par le DTI, et dans différents secteurs. Là, j'ai un peu agrégé les secteurs, il y en avait plus dans l'étude d'origine. Donc ils ont identifié un certain nombre d'entreprises. Et puis, quand on regarde finalement le nombre de brevets qu'elles déposent qui contiennent le mot nano ou des concepts nano, vous apercevez que dans certains secteurs, c'est 53%, mais presque tous les secteurs sont concernés. Vous voyez, il n'y a pas une industrie nano. Tous les industriels sont concernés donc par des brevets sur l'échelle nano, même les services, alors moins que les autres, hein, parce que dans le domaine de l'assurance, il y a un peu moins de nanotechnologie que dans d'autres, mais tous les secteurs sont concernés. Donc c'est important, il faut voir que ça n'est pas une industrie à côté, c'est plutôt quelque chose qui est générique, hein, c'est le fait de s'intéresser à l'échelle nanométrique pour développer de nouveaux procédés. Voilà. Bon, il y a d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez... Il y a deux grands domaines, hein, qui ressemblent à ça, ce sont les nanotechnologies et aussi les technologies de l'information et de la communication, enfin, qui ont des interconnexions, bien sûr. Et dans ces deux domaines-là, il y a une très forte croissance de la recherche et du développement. C'est de l'ordre de plus 10% par an, avec la constitution de très gros blocs, hein, qui existent. Vous voyez, un bloc américain, un bloc européen, un bloc asiatique, donc avec des fonctionnements un peu variés. Donc les Américains publient en nano que 23% des publications. Enfin, d'après, c'est toujours le LATS, hein, là, qui raconte ça, si vous voulez. Par contre, ils ont 55% des brevets et beaucoup de firmes impliquées. Voilà. En Europe, on est meilleur en publication. Par contre, en brevets, on est moins bon, mais ça, je ne vous l'apprendrai pas. Il y a quand même un certain nombre un nombre raisonnable de firmes appliquées. Et en Asie, c'est une situation intermédiaire. Voilà. D'ailleurs, avec des disparités assez importantes. En Chine, il y a assez peu de brevets, beaucoup de publications. Par contre, en Corée ou au Japon, il y a beaucoup plus de brevets, moins de publications. Mais vous avez donc la création de très gros clusters. Donc ici, d'ailleurs, vous avez déjà la zone Île-de-France, qui s'est peu connue dans le domaine des publications. C'est le 6e cluster mondial, hein, quand même. On n'a pas à rougir en France. Bon, par contre, on peut faire mieux en innovation, mais ça, c'est vrai. Alors, je vais vous parler de quelques domaines d'application un peu en vrac. Alors, c'est presque un peu anecdotique, hein. Donc, les nanomatériaux, c'est un espèce d'inventaire à la Prévert. Je dirais même qu'il n'y a pas de matériaux qui ne soient pas structurés à l'échelle nanométrique. Bon, même les cristaux ultra purs, ils sont toujours structurés, hein. La matière est en fait d'atomes. Par contre, il y a des procédés où l'artisan et maintenant l'industriel, finalement, faisait quelque chose qui aidait les atomes à se structurer à l'échelle nanométrique pour donner certaines propriétés. Donc l'exemple tarte à la crème qu'on cite souvent, ce sont soit les verres anciens qui datent des Romains ou de la Renaissance, ou les verriers, en ajoutant des sels métalliques, faisaient qu'il y ait des petites gouttelettes de métal nanométrique qui précipitaient dans le verre. Alors ils ne savaient pas du tout que faisaient des nanotechnologies, par contre ça donnait des couleurs, parce que les petites billes de métal ont des couleurs différentes du métal massif, si vous voulez. La couleur dépend de la taille. On peut faire l'analogie, c'est pas exactement, c'est un peu faux, mais il y a des ailes de papillon qui doivent leur couleur, non pas un colorant, mais à leur structuration. Donc c'est un peu le même principe. Voilà, mais on peut aussi, donc ça c'était pour de la couleur, on peut aussi structurer de la matière à l'échelle de la surface pour faire que la matière a une aversion pour l'eau, enfin, surtout vice-versa d'ailleurs, ce qui fait que la surface ne mouille pas. Donc la nature le fait très bien, hein. Il y a des feuilles de végétaux comme les feuilles de chou, on appelle ça l'effet lotus. Moi je préfère dire qu'en France c'est l'effet feuille de chou, hein. Quand vous faites rouler de l'eau sur une feuille de chou, l'eau n'attache pas à cause d'une structuration des molécules aussi en surface de la feuille, si vous voulez. Voilà. Alors à l'inverse, de la matière structurée à l'échelle nanométrique peut être adhésive. Alors c'est le cas du gecko, c'est un petit lézard qui a à peu près sous l'ensemble de ses 4 pieds, donc 20 doigts de pied, a 1 milliard de petits poils à peu près, donc qui se terminent par des petites pointes nanométriques qui vont se ficher sur les objets là où il pose le pied, et ça colle, simplement parce qu'à cette échelle-là, il y a une attraction, donc il y a une adhésion, Et il y a des chercheurs qui ont réussi à dupliquer ça en faisant des petits poils sur de la matière plastique, donc pour faire des adhésifs, donc sans produits chimiques, uniquement par effet physique. Voilà. Bon, il y a énormément de matériaux qui sont déjà dopés à l'échelle nanométrique par des charges. Alors, les charges dans les polymères, ce n'est pas récent, hein. Là, on le fait peut-être aussi plus sciemment en mettant des particules d'argile ou des nanotubes de carbone. Voilà. Il y a quelque chose, alors, je ne sais pas si ça durera, mais qui est à la mode pour l'instant. Donc, c'est l'utilisation des particules d'argent. Donc, pendant longtemps, l'argent a été utilisé pour faire de la photographie. Là, ils ont tendance à trouver un nouveau débouché qui est les propriétés antibactériennes de l'argent. Donc, l'argent, quand il est très, très finement divisé sous forme de nanoparticules, a tendance à être bactéricide. Donc au début, on voulait en mettre dans les peintures, dans les hôpitaux pour éviter les infections. Mais en ce moment, on voit une explosion de produits qui contiennent de l'argent pour être bactéricides. Donc parfois, vraiment tout genre. Hein, voilà. Même des tétines pour bébés, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Si on regarde à plus long terme, ça n'est pas une activité de recherche proprement dite, mais on peut aussi espérer que ces technologies font que finalement, vous voyez là, je vous ai parlé de la couleur. On peut remplir des fonctions avec des matériaux très variés. On peut espérer remplacer certains éléments qui ne sont pas si courants que ça dans la nature par des nanostructures avec des matériaux beaucoup plus courants pour éviter de gaspiller des ressources naturelles ou aussi pour faire des matériaux qui soient recyclables dans l'environnement. Ce que je voulais peut-être faire passer un message, c'est que nanomatériaux, ce n'est pas forcément synonyme de quelque chose de high-tech qui après pollue l'environnement, se dégrade jamais indestructible. C'est un concept très général, hein. La paille est un excellent nanomatériau, ça peut aussi, à l'inverse, servir à faire des choses plus assimilables au développement durable. Donc je l'ai mis en encadré parce que je ne peux pas vous parler de grandes réalisations spectaculaires, il y en a quelques-unes. Hein. Certains parlent de nanotechnologie verte, enfin, c'est normal, c'est, tout le monde fait ça. Voilà. Voilà. Alors, technologie de l'information, bon, ça je crois que c'est le plus connu, ça. C'est, je dirais, ce qui impacte le grand public, c'est ce qu'on voit le plus des nanotechnologies. C'est donc simplement le fait qu'avec les techniques s'améliorant, on fait des choses de plus en plus petites. Donc quand le premier microprocesseur est sorti dans les années 70, il n'y avait que 2300 transistors avec des finesses de 10 micromètres, donc 10 millionièmes de mètres. Voilà. Maintenant, on en est plutôt à 100 fois plus petit dans une dimension à peu près, donc 100 nanomètres, même enfin 65 nanomètres, un peu en dessous, ça dépend si on parle du laboratoire ou de l'industrie, des grandes productions. Ben on fait des choses maintenant où on peut mettre couramment, alors ça c'est les plus gros, mais on met couramment des centaines de millions de transistors dans les processeurs du commerce. Voilà. Donc cette progression qu'on appelle la loi de Moore va encore durer sans doute. Bon alors, ça dépend des avis, mais jusque vers 2020, on aura sans doute des finesses de trait de 10-15 nanomètres pour les transistors. Ben, ce qui risque de limiter, c'est... Après, la physique, les lois de la physique font que ça ne marchera plus. On ne peut pas tendre vers l'infiniment petit. La matière étant formée d'atomes, à un moment, ça va s'arrêter. Mais il y aura peut-être aussi des barrières économiques. À un moment, ça devient très cher de produire ça. Et puis, si un ordinateur est un peu plus puissant, mais coûte 10 fois plus cher, ça sera beaucoup moins intéressant, donc ça s'arrêtera. Voilà. Mais ça a permis pendant... C'est assez rare dans l'industrie de doubler les performances quasiment tous les ans pendant 50 ans, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc ça a eu un impact extraordinaire donc sur les produits. Donc dans les années 60, c'était juste au début des circuits intégrés. On a commencé à faire dans les années 60 et à cette époque-là, il y avait déjà des ordinateurs, mais c'était des grosses machines qui étaient à l'échelon d'une grande entreprise. Voilà. 20 ans plus tard, on a fait des ordinateurs personnels. Donc c'est lié implicitement à la miniaturisation parce que là, il y avait donc déjà des microprocesseurs, même dans les années 80 déjà assez évolués. Et puis les puissances de calcul augmentant, on fait des objets de plus en plus petits, si vous voulez. Voilà. À cette époque-là, personne n'avait d'ordinateur chez lui, pratiquement. Ici, ça a été l'avènement de l'ordinateur individuel. Les gens avaient en gros, enfin au moins les gens dans les pays assez riches, un processeur par personne. Ici, plus personne ne sait actuellement dans la salle. Vous ne savez pas combien vous avez de microprocesseurs chez vous qui travaillent pour vous. On ne le sait plus. Bon, dernier point, c'est l'interface avec le vivant. Donc la médecine est un art, je veux dire, qui a toujours utilisé de tout temps les développements de la technique et de la science disponibles à l'époque, assez naturellement. Ça a longtemps été la chimie avec la pharmacie. Maintenant, on parle aussi de nanomédecine, hein, c'est simplement l'idée d'utiliser ces techniques de miniaturisation pour la médecine. Donc il y a au moins deux grands volets qui sont très, très, très déjà d'actualité, hein, depuis un peu longtemps. C'est les méthodes d'instrumentation et d'analyse, donc on vous en parlera tout à l'heure. Alors, soit qu'on fabrique des dispositifs qui permettent de faire des analyses de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le ferait avant. C'est le concept d'un laboratoire, finalement, sur une puce. Ça fait l'équivalent d'un laboratoire de chimie, mais qui serait sur une puce. Soit on miniaturise pour faire un appareil de mesure, alors qu'il n'est pas nanométrique. Ça, c'est une pilule standard qu'on avale. Par contre, donc on miniaturise, mais c'est un peu impropre d'appeler ça nanotechnologie quand même. Bon, par exemple, ça, c'est une caméra avec des petites lumières qu'on avale. Ça fait une endoscopie, quoi. On l'avale et ça ressort de l'autre côté après avoir tourné le film. Voilà. 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 Et l'autre grand... Ça n'est pas recyclable. L'autre grand domaine, c'est des médicaments, je veux dire, où on va un peu plus loin que la chimie, donc en remplaçant une simple molécule par un système qui peut protéger le médicament des attaques du corps, de le cibler vers là où on veut qu'il aille. Voilà. Donc il y a aussi d'autres concepts plus généraux, comme la réparation tissulaire, où on se sert de ces technologies pour essayer de réparer des tissus. Voilà, mais je veux dire, les choses qui sont déjà dans le commerce, si j'ose dire, parfois depuis quelques années, ce sont surtout ces deux choses-là. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant aussi de science-fiction, parce que c'est un domaine, je veux dire, à la limite, ça aurait pu être banal pour un chercheur, dire, bon, l'échelle nanométrique, c'est un domaine banal de recherche, mais c'est quelque chose qui a également eu des... c'est arrivé à l'électricité, à l'espace dans le passé, qui a des résonances très fortes avec l'imaginaire. Donc il y a également eu beaucoup d'ouvrages, parfois issus d'anciens chercheurs d'ailleurs, mais pas seulement, où on faisait travailler l'imagination sur les perspectives de toutes ces techniques. Voilà, donc que ce soit des machines tellement intelligentes qu'elles, des transistors ou l'équivalent encore plus nano, si puissant qu'on puisse faire des machines plus intelligentes que l'homme, hein, des robots qui nous remplaceraient. Celui-là de faire donc des petits nanorobots indépendants capables de se multiplier, hein, comme le fait le vivant. Là aussi, c'est des machines intelligentes. Donc, il y a eu beaucoup d'œuvres de science-fiction qui ont été faites. Alors, on peut en parler des heures, hein, mais je vais juste vous parler de quelque chose qui a beaucoup défrayé la chronique au début des années 2000, qui était un petit peu l'emblème des nanos pendant une époque, même si maintenant le débat s'est beaucoup déplacé. C'était donc le concept de faire des petits robots, tout petits. Exactement, il faut voir ça comme une bactérie, hein, simplement que ça travaille beaucoup plus vite, hein, quand on regarde les livres des auteurs mentionnés. Donc, capable de fabriquer des objets, donc ce petit robot, bah, comme une bactérie fabrique des protéines, des molécules, il pourrait fabriquer des objets. Donc, il y a un livre de M. Drexler, là où il décrit un grand bain, une grande cuve, où petit à petit, des tas de petites bébêtes fabriquent un turboréacteur d'avion qui petit à petit, on le voit apparaître, si vous voulez. Alors ces robots, il faut qu'ils se dupliquent, parce que pour assembler de la matière, il y a beaucoup d'atomes, hein, pour fabriquer un objet, c'est des milliards de milliards de milliards, enfin beaucoup plus que ça même, et on ne peut pas fabriquer ces robots un par un, donc il faut faire comme le vivant, c'est-à-dire que ces robots se fabriquent eux-mêmes, hein. On en fabrique un, il en fabrique deux, quatre, huit, etc., et ça va assez vite. Donc c'est de fabriquer des systèmes capables de s'auto-répliquer et après de fabriquer des objets. C'est un concept, je dirais, de science-fiction, même si les sciences du vivant, les biotechnologies, c'est ce qu'elles font avec le vivant. Hein, les bactéries, c'est exactement ça. Bon, et ça regroupe d'autres domaines de recherche où il existe des systèmes autodupliquants. Ben, le plus connu, c'est en informatique, c'est le virus informatique. Hein, c'est quelque chose d'immatériel, mais qui se duplique et qui échappe à tout contrôle, d'ailleurs, tant qu'il n'y a pas d'antivirus efficace. Voilà, et ça a mené au concept de gelée grise, bah, qui consiste à dire, bah, si jamais on perd le contrôle, est-ce que ces nanorobots ne vont pas bouffer la planète? Donc on imagine une gelée grise, donc, qui est ce magma de petits robots qui se déplacent et qui mangent tout sur son passage. Donc il y a eu pas mal d'émois. Alors c'est lié donc à ce livre de M. Drexler, ici présent, là, qui a donc écrit un livre d'ailleurs passionnant sur le sujet. Pas forcément un travail de scientifique proprement dit, mais c'est à mi-chemin entre la science et la science-fiction. Je dirais que c'est de la prospective. Il y a eu un roman qui s'appelle La Proie, de Michael Crichton, qui est sorti juste après, qui n'était pas exactement le même concept, mais c'était quand même des petites micro-machines qui se multipliaient, dont on perdait le contrôle, avec tous les ingrédients qu'il fallait, une société qui voulait gagner de l'argent, qui ne prenait pas toutes les précautions, enfin, tout ce qu'il fallait pour faire peur. Et bon, il y a eu au début des années 2000 une espèce de peur de la gelée grise, Même le prince Charles s'en est mêlé, donc c'est quelque chose qui était... parce qu'il avait sans doute lu il y a eu des manifestes aussi d'organisations non gouvernementales, le livre de Michael Crichton. Il s'est un peu inquiété de ça. La presse a beaucoup amplifié ses propos, hein, probablement. Enfin, n'empêche que le Royaume-Uni s'est mis assez tôt finalement à réfléchir sur les implications du sujet. Et ils ont été longtemps en pointe sur le sujet. Bon, finalement, d'avoir une monarchie, ça a des avantages, même dans les débats science-société, apparemment. Voilà. Et puis, il y a eu des débats scientifiques qu'on retrouve encore sur Internet, très célèbres. Bon, donc, on ne peut pas dire que c'est impossible, puisque c'est ce que fait la vie. Donc, aucun chercheur vous dira qu'on ne peut pas fabriquer ça, ça existe dans la nature. Donc, un chercheur qui est en principe quelqu'un de rigoureux ne peut pas dire que c'est impossible, c'est de la blague. Voilà. Bon, par contre, il peut très bien ajouter, on est très très loin de fabriquer du vivant dans les laboratoires. Voilà. Il y a même eu, si je vais aller plus loin, je veux dire, là, les grilles, ça s'est déjà produit. C'est-à-dire que, mais pour notre plus grand bénéfice, puisque finalement, l'atmosphère, une grande partie du sol, hein, que ce soit le calcaire, l'humus, a été formée par la vie. Au début, il n'y avait rien sur Terre. La vie est apparue, ça s'est multiplié, et ça a complètement bouleversé la planète. Avant, l'atmosphère était différente, et les sols aussi. Donc, il y a déjà eu un phénomène d'apparition de microbidules qui ont finalement colonisé la Terre et changé la planète. Donc, raison, voilà, si on veut faire peur, on peut dire ça, c'est déjà arrivé une fois. Voilà. Par contre, il y a tout des débats scientifiques du genre, est-ce que ça peut se faire en milieu sec, parce que la vie a besoin d'eau. Est-ce qu'on pourrait faire des petites machines en ferraille ou en silicium qui rampent partout? Est-ce qu'on peut même les concevoir, parce qu'on est loin de concevoir une cellule vivante, hein, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut le fabriquer? Et puis, quelle source d'énergie? Parce que quand on fait des petits calculs avec les robots de ce monsieur, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème d'énergie quand même. Donc c'est une question, je veux dire, le débat est un peu clos, je veux dire, il est maintenant quand même reconnu que c'est pas quelque chose que préparent les chercheurs dans le laboratoire, c'est extrêmement loin de la faisabilité, mais c'est un domaine où vraiment il y a eu beaucoup de débats, ce qui résonnait à la fois avec la science, mais aussi avec l'imaginaire, si vous voulez. Voilà. Donc en reparlant de débats, donc les débats sur les nanos, alors des débats sur la technique en général, il ne date pas de 2000, il y en a depuis toujours. Hein. Il y a des grands auteurs qui ont pu raisonner sur le sens de la vie. Est-ce que l'homme est vraiment... Est-ce que c'est ça, par essence, qu'il doit faire des progrès techniques, vivre de plus en plus artificiellement? Est-ce que c'est son destin ou est-ce que ça ne devrait pas? Donc, il y a des débats anciens. Mais il y a un débat spécifiquement nano qui se greffe là-dessus. Bah parce que les nanos, c'est un petit peu aussi le symbole du progrès technique, finalement, l'intelligence, la sophistication qui font des objets techniques de plus en plus complexes. Donc, c'est aussi un symbole, si vous voulez. Mais c'est une question très générale. Hein. Donc, il y a eu, dans les années 2000, par exemple, à peu près en même temps où le président Clinton a lancé une grande initiative nano aux États-Unis, ça a rendu le sujet visible à ce moment-là. Bah, il y a eu des organisations non gouvernementales très connues, hein, qui ont écrit des gros bouquins, pas stupides, hein, sur les risques, hein, de ces techniques, alors avec un mélange imaginaire et réel, le bouquin de Michael Crichton, et puis des associations, différentes personnes ont pris la parole pour dire, mais oui, finalement, il y a des problèmes, ça pourrait être dangereux, et ça continue. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler, il y a eu un débat public sur les nanos. Donc c'est un sujet où il y a un questionnement un peu général sur ce sujet. Attendez, je regarde juste ce que j'ai fait après. Ouais, c'est bon. Alors, en fait, pour voir ce débat, il faut avoir un petit peu l'image que je vous ai montrée avec les mili-technologies. Comme c'est un sujet extrêmement varié, un peu fourre-tout, les questionnements sur les nanos, il y a un trait commun qui est le mot nano et une espèce d'imaginaire collectif associé à cette échelle de longueur, mais c'est des sujets qui sont extrêmement disparates. Parfois même à la limite qui ne sont plus nano, mais c'est un petit peu assimilé. Donc une question qui revient souvent, c'est la protection de la vie privée, puisque je vous vante ce qu'on fait des systèmes de plus en plus petits, capables de communiquer, de réfléchir, etc. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir partout finalement et qui vont prendre des informations sur ce qu'on fait? Donc ce n'est pas une question nouvelle, hein, avec l'Internet, avec les fichiers informatisés, c'est déjà une question tout à fait d'actualité. Simplement, on se demande est-ce que ça va empirer cette question. Donc, par exemple, ça intervient à travers les étiquettes électroniques. Donc, ce sont des toutes petites étiquettes, enfin petites, elles sont, on les voit, elles sont millimétriques, mais en fait, c'est des étiquettes qui permettent d'identifier chaque produit un par un. C'est un numéro, il suffit d'avoir assez de chiffres. Hein. Chaque produit manufacturé un numéro d'immatriculation, si j'ose dire. Et c'est bien parce que ça permet de, pour gérer, pour la fabrication, pour le transport, pour la gestion des stocks, d'avoir un état parfait des inventaires à tout moment, donc en interrogeant à chaque produit. Voilà. La technique permet déjà de le faire largement. C'est plutôt le coût qui limite le. On identifie plutôt à ce moment les palettes ou les caisses que les produits individuels. Mais ça pose des questions. C'est finalement, si cette étiquette reste collée au produit après l'achat, il peut être interrogé à distance. Est-ce que ça ne va pas permettre de suivre le client, de l'espionner quand il revient dans le magasin avec le t-shirt qu'il a acheté dans le même magasin, finalement on le reconnaît, enfin, etc. Donc ça, la CNIL aussi s'est interrogée sur cette question, parce que même si ce sont des données qu'on pourrait qualifier d'insignifiantes, le fait que vous ayez sur vous une dizaine de produits comme ça, le recoupement de ces données insignifiantes peut devenir signifiant. Donc il y a un débat sur ce genre de procédé, si vous voulez. Actuellement, ça existe dans les antivols, c'est bien connu, hein, le portique qui sonne quand vous sortez du magasin, il y a cette étiquette, mais ça ne permet pas d'identifier le produit. C'est juste ça dit juste, je viens de l'intérieur du magasin, on est en train de me voler, c'est tout ce que ça dit. Mais en compliquant un peu, ça peut dire aussi, je suis le produit, numéro tant, etc. Donc si ça se déploie, ça peut poser ce genre de questions. Donc c'est pas du tout un problème, je dirais, grave. C'est une question plutôt de réglementation. Il suffit peut-être de dire que ces produits doivent être bien apparents, qu'on puisse les enlever, par exemple, et tout rentrera dans l'ordre. Alors ça peut être plus pernicieux que ça, parce qu'on va peut-être vous dire le produit reste sous garantie tant que vous n'arrachez pas l'étiquette, parce qu'on peut le reconnaître. Enfin, voilà, mais c'est plutôt une affaire de réglementation que de danger, si vous voulez. C'est comment, face à ces nouveaux produits, légiférer pour que ça existe pour le plus grand bien de tous. Voilà. Alors, quelque chose qu'on retrouve aussi à la fois dans le réel, mais surtout dans l'image, c'est la notion de puce espion. C'est le fait que ça, c'est pas tout à fait de l'imaginaire, parce que ça c'est un grain de riz, et ça, c'est une petite puce Hitachi, donc c'est pas... Je peux vous dire que ça n'existe pas. C'est un RFID, c'est une petite puce qui justement, c'est un produit de ce genre-là, qui connaît juste un numéro. Voilà. Mais est-ce qu'un jour, il n'y aura pas des puces capables d'espionner les gens dans les produits, dans les objets, parce que le mot nano, donc, évoque des choses toutes petites, invisibles. Voilà. Alors, il y a un risque d'ailleurs qui est plus, moi je croirais plutôt que des toutes petites puces simplement. Le vrai risque, à mon avis, c'est celui-là, c'est le fait que la plupart, on commence à avoir de l'informatique dans de plus en plus d'objets finalement. Comme elle n'est pas chère, on en trouve maintenant dans l'électroménager assez couramment. On en trouvera peut-être un jour, comme c'est de moins en moins cher, dans des produits moins chers. Peut-être, c'est pas de la science-fiction, les automobiles pourraient très bien être reliés à Internet, par exemple. Donc il y aura de plus en plus d'objets que nous utilisons reliés à Internet ou capables de communiquer, qui ne sera pas forcément des toutes petites choses invisibles, mais simplement, on va vivre dans un environnement avec des objets plus intelligents et communicants. Est-ce que, par hasard, ces données ne pourraient pas être coupées, finalement ? C'est un peu ça existe avec la carte bleue, finalement. Vous servez d'une carte de crédit ou d'un téléphone portable, ça donne des informations sur votre activité. Voilà, simplement, est-ce que la généralisation de ça, finalement, en introduisant de l'informatique partout, n'est pas nuisible aux citoyens? Donc, ce sont des questions qui sont, je dirais, une fois de plus, de réglementation qu'un vrai risque. Voilà. Voilà. Alors, quelque chose, par contre, dans tous les débats, qui fait très peur aux gens, même si je dirais que c'est pas forcément ce qui est je considère le danger numéro un, c'est le fait qu'on injecte ça dans le corps. Voilà. Il y a une peur qui existe, c'est est-ce qu'un jour il ne sera pas obligatoire d'avoir des puces injectées dans le corps? Alors, pour la petite histoire, c'est une peur qui est très forte, ça m'étonne toujours. Ce n'est pas une dimension de débat scientifique, c'est une peur. Voilà. Dans certains pays, lorsqu'il y a eu la campagne de vaccination sur le vaccin H1N1, vous pouvez retrouver ça sur Internet, il y a des gens qui ont fait croire le bruit que l'adjuvant, les nanoparticules d'adjuvant, en fait, c'est des puces pour espionner les gens. Et que cette pandémie était en fait un vaste complot pour injecter des puces à la population. Voilà. Voilà. Et puis dans certains cas, après tout, il y a des gens qui y ont cru. Voilà. Voilà. Il faut dire aussi que ça, c'est techniquement possible. Les faits, ça se fait pour les animaux. Pour identifier un animal, on peut lui injecter une petite puce d'identification. Et ça s'est fait sur quelques milliers d'êtres humains. Alors, à ma connaissance volontaire, pour des raisons diverses et variées, et dans certains pays, c'est même commercialement possible, c'est-à-dire que ça s'achète. Voilà. Donc, ça a été vendu, je dirais peut-être de façon abusive, comme un produit anti-kidnapping. Mettez une puce à vos enfants, comme ça on les retrouve. Voilà. Mais enfin, il y a aussi de l'abus, parce que ce ne sont pas des puces qui communiquent à longue portée. Ça a été, c'est aussi utilisé c'est connu, comme moyen de paiement. C'est-à-dire que ça peut, c'est plus la carte qui est ta puce, quoi, c'est vous. Hein, donc ça, ça peut être vu comme quelque chose de sécurisé. Je crois que je vais accélérer un tout petit peu. Je vais parler parce qu'il y avait des questions, mais qui sont du ressort de l'éthique médicale. On retrouve les problèmes de l'éthique médicale. Je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus. Le débat le plus concret, si vous voulez, c'est sur la toxicité. Donc ça consiste à dire que même si c'est ancien, on produit déjà des assez forts tonnages de nanoparticules, surtout lorsque c'est le noir de carbone ou la silice qui ont une histoire déjà ancienne, mais on en fait des nouvelles aussi, avec des applications nouvelles parfois, notamment les produits bactéricides, des surfaces auto-nettoyantes. Donc il y a un questionnement sur la toxicité possible de ces nouveaux produits. Donc dans le monde, et en particulier en France, bien sûr, on pense à l'amiante, hein, qui était un produit miracle et qui s'est révélé toxique. Donc la question se pose, est-ce que ces produits, certains de ces nouveaux matériaux ne seraient pas toxiques ? Donc c'est un débat qui est tout à fait vrai. Là, je ne le qualifierais pas d'imaginaire, hein, surtout pas. Voilà. Il y a aussi des utilisations polémiques qui se greffent là-dessus. Donc, bon, pour les cosmétiques, il y en a dans beaucoup de cosmétiques, mais je dirais qu'il y a des formulations traditionnelles. Il y a toujours eu des choses nanométriques, c'est à moins qu'on veuille que ça ressemble à du plâtre. Mais on met aussi des fulrènes, des produits, disons, plus récents à base de nanotechnologie dans certains cosmétiques. Alors, dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, c'est un argument de vente parce que c'est fait high-tech branché. Dans d'autres pays comme le nôtre, pas du tout. Hein, c'est quelque chose qui est plutôt mal vu. Donc ça, on trouve coexistant sur Internet des produits où on n'en parle surtout pas et des produits où c'est l'argument de vente principal. Voilà. Bon, on parle aussi, alors peu en France, hein, mais de nanotechnologie dans la nourriture. C'est des sujets aussi qui sont extrêmement polémiques, évidemment. C'est quelque chose aussi, ce qu'on incorpore, et c'est quelque chose de très sensible. Voilà. Et dans le même esprit, les alicaments, donc des produits qui contiennent des nanoformulations, si vous voulez, pour faire venir des nutriments. Même si dans tous les produits naturels, le lait par exemple, tout est nanostructuré, le fait de dire je le fais industriellement évoque des craintes, si vous voulez. Voilà, alors peut-être pour résumer les débats, je dirais ça, voilà, c'est, vous avez des débats traditionnels, les débats sur la toxicité, qui sont aussi anciens que la science des matériaux, la chimie surtout, donc qui se décline à l'échelle nano, parce que avec le concept de petites particules invisibles, donc on inhale ou qu'on ingère. Voilà. Donc j'en ai pas trop parlé, dans le domaine des médicaments, on retrouve les questions de la bioéthique, hein, sur la manipulation, avec notamment que j'étais nano, la manipulation de l'humain, la possibilité d'implanter des puces pour contrôler les gens, vous avez des débats, des craintes de ce genre-là. Il y a en technologie de l'information, les problèmes traditionnels aussi, hein, le contrôle des données personnelles, la surveillance, la vie privée, qui se déclinent à l'échelle nano avec l'idée donc de puces invisibles qui vous espionnent ou implantées dans le corps. Donc il y a un peu ce qu'on appelle un débat nano, je dirais, qui est un peu la confluence de questions traditionnelles qu'on retrouve, hein, dans les sciences et les technologies, mais avec une déclinaison particulière, et je dirais elle se renforce mutuellement. Voilà. Voilà. Bon, donc je vais faire une conclusion rapide. Donc, je vais faire passer 4 ou 5 messages. Ça n'est pas une discipline proprement dite. Hein. Par contre, c'est une description simple et efficace. C'est une nouvelle image de la science qui a... Alors, c'est à la fois un effet de mode, mais en même temps, ça a été très utile, hein, pour l'organisation des sciences, pour stimuler l'innovation, l'interdisciplinarité. Ça a des avantages aussi. Voilà. Voilà, mais enfin, faut être lucide. Je veux dire, bon, la plupart des gens concernés sont lucides. C'est une façon de présenter les choses. Voilà. Côté industriel, par contre, c'est plus contrasté. C'est-à-dire que il faut voir ça comme une technologie diffusante, hein, qui diffuse dans toutes les branches d'activité. Hein. Ça augmente la valeur d'un produit, mais parfois, ce n'est pas du tout au cœur du produit. Hein. Quand vous trempez une paire de chaussettes dans un bain de particules d'argent, ça n'est pas un nouveau produit. C'est un procédé qui représente peut-être 1% de la valeur de la paire de chaussettes, si vous voulez. Mais c'est donc simplement, il y a un petit ingrédient nano dans le produit. Voilà. Voilà. Et pour d'autres industries, donc c'est effectivement inscrit dans leur gène, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc comme toute innovation, il y a des bénéfices et des risques. Enfin, c'est un peu évident ce que je vous dis, hein, c'est standard. Avec simplement peut-être les nanotechnologies, c'est une échelle de longueur et pas un domaine, quand on parle de débat nano, on parle en fait un petit peu de tous les risques techniques possibles. Voilà. Avec parfois quelques déclinaisons spécifiques, mais on retrouve les débats standards. On retrouve le débat de la chimie, les débats de la bioéthique, les débats sur la vie privée, l'informatique, on retrouve les mêmes. Voilà. Bon. Mais c'est un domaine aussi là, où le poids de l'imaginaire va bien au-delà, je dirais, du périmètre des nanotechnologies. C'est devenu finalement presque un être indépendant de la recherche, si vous voulez, l'entité nano, avec tout un imaginaire, bon, déjà de la science-fiction, des résonances avec certains mythes, si vous voulez, qui donnent à ce phénomène-là une dimension autre, qui parfois d'ailleurs résonne évidemment avec les débats. Voilà. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Nous sommes dans les temps. Nous avons la possibilité d'avoir une dizaine de minutes de questions avant de passer à l'intervention suivante. Alors, je sais que c'est toujours difficile de démarrer. Donc, je vais simplement lancer, on va dire, le débat. Souvent, on rapproche le débat sur les nanotechnologies avec celui des OGM, ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même, parce que des OGM, on est dans un domaine beaucoup plus précis, disons. Simplement, quand on observe, maintenant, on a du recul sur le débat concernant les OGM, on va dire que restent deux aspects majeurs. Un, c'est la dissémination dans la nature et la possibilité de transfert de gènes à d'autres espèces. Et le deuxième aspect, moi, qui me paraît très important et sur lequel vraiment je crois qu'on peut être très critique, c'est l'impact des industriels ou le verrouillage d'un secteur industriel à partir de cette technologie. Donc on pense à Monsanto et à cette problématique. Est-ce qu'on a, au niveau des nanotechnologies, on va dire, des craintes un peu similaires qui justement font que le public aujourd'hui peut éventuellement, enfin le public ou des personnes averties peuvent être très critiques vis-à-vis du développement des nanotechnologies?
Oui, on va peut-être reprendre, c'est une question multiple. Je vais reprendre justement mon... Comme j'avais peu de temps, j'étais un peu réducteur, merci de cette question, parce que ça me permet de dire quelque chose d'important dans ce débat, mais qu'on retrouve aussi dans les autres. Voilà. Je reprends ça, en fait, ce diagramme, en toute rigueur, il aurait dû être en volume, là, il est en surface. Il y a une autre dimension qui apparaît souvent dans ces débats, c'est effectivement les questions un peu politiques, hein, avec un grand P. Est-ce qu'il y a un risque de monopole industriel? Donc effectivement, pour les OGM, c'est quand même, il y a les craintes, je veux dire, fondées sur la dissémination des gènes, mais aussi des craintes sur la mainmise d'une industrie, finalement, qui après, ben, à la fois, il y a une mainmise économique, et puis il y a aussi une mainmise sur les risques. Si on n'a plus le choix, je veux dire, on est obligé aussi d'accepter des risques qu'on n'aurait peut-être pas voulu s'il y avait une libre concurrence. Donc cette crainte existe. Il y a aussi des craintes sur est-ce que, ça qu'on trouve dans les OGM aussi, est-ce que le fait que les pays riches se payent beaucoup de R&D, finalement, ça n'a pas nuire aux pays en voie de développement, qui sont obligés après d'accepter ces techniques et de les payer, hein, qui n'auront pas le choix. Il y a aussi des débats sur l'impact sur la société, est-ce que ça peut faire des riches et des pauvres. On parle beaucoup de nanomédecine, c'est une question intéressante. Ouais, un opposant qui m'a demandé, bah oui, mais votre truc, là, c'est une médecine pour les riches. Les pauvres n'auront pas les moyens de se payer ça. Donc, il y a toute une dimension politique qui est très importante aussi dans ce débat, et je dirais que c'est peut-être un point commun avec les OGM et tous les domaines, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé du risque, ce qui intéresse le citoyen, c'est l'implémentation pratique qui passe forcément par un industriel. C'est-à-dire quelles conditions de transparence ça va se faire. Voilà. Alors, en ce qui concerne sur les monopoles, donc, comme c'est un sujet très varié, je dirais toute industrie peut faire ça. Donc, contrairement aux OGM, où c'est une technique qui me paraît quand même un peu plus ciblée, il y a effectivement des gros monopoles qui se créent. En nano, pour l'instant, il n'y a pas, comme ce n'est pas une branche industrielle, il n'y a pas de monopole proprement dit. Par contre, dans un secteur donné, hein, ben, on parle déjà pour le secteur de l'informatique, bon, on parle de Google, de Microsoft, si, oh là là, il y a vraiment de très gros acteurs, ce n'est pas forcément bon pour à long terme. On peut se poser la question dans d'autres secteurs, donc on peut parler des circuits électroniques, par exemple. Hein. Quand on fait des circuits de plus en plus petits, donc 65-45 nanomètres, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'usine est de plus en plus chère. C'est normal, hein, quand vous vous rendez compte, un circuit à 45 nanomètres, donc c'est 45 secondes de la pousse d'un ongle. Hein, ça vous laisse imaginer que le positionnement des grandes plaquettes de silicium doit être assez précis quand même. Et ça veut dire que c'est très cher, en fait, toutes ces machines. Donc les usines, maintenant, ont des coûts qui se mesurent en nombreux milliards d'euros. Ça veut dire que petit à petit, on a des usines avec de très gros groupes financiers qui investissent. et de moins en moins d'usines, parce qu'après, bon, là, il faut écouler la production, mais le marché est quand même fini, on est sur une planète finie. Donc il y a une crainte de concentration dans les circuits intégrés à cause de ça. Et actuellement, elle se fait plutôt en Asie, hein, à Taïwan et autres. Bon, il y a encore quelques fleurons en Europe, comme STMicroelectronics, il y en a aux USA aussi, mais on a une crainte de la concentration de la fabrication de circuits intégrés, donc avec peu d'acteurs. Donc, c'est une question qui se pose. Alors, elle ne se pose pas exactement comme le cas de Monsanto, elle se pose même au point de vue de la souveraineté de l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, comme tout est informatique et électronique, si un jour on dépend de fournisseurs pour nos circuits intégrés, ça peut être très dangereux. Voilà. Donc il y a des questions qui se posent. Alors, en nanomédecine, on peut très bien imaginer aussi qu'il y ait des monopoles qui se créent. Forcément, je veux dire, c'est vrai en pharmacie, il y a toujours des... Il faut bien rembourser la recherche, n'est-ce pas? Donc après, les industries revendiquent sur le monopole. Bon, et puis après, il y a la problématique des pays en voie de développement qui voudraient des génériques, etc. Donc les questions sont... On retrouve par branche les mêmes interrogations. Voilà. Mais je ne vois pas une spécificité nano... À part le cas de la microélectronique qui est bien précis, parce que dans ce cas-là, ça veut dire des investissements de plus en plus gros, donc ça pousse à la concentration. Mais dans beaucoup d'autres domaines, le coût de l'ingrédient nano est très faible et c'est à la portée de beaucoup d'industriels. Je crois que j'ai...
Oui, dans votre dernière ou une des dernières diapos, il y avait une ligne, c'est dans la conclusion, je crois, oui, voilà, la troisième ligne, des bénéfices et des risques, comme toute autre innovation. Oui, sans doute. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas faire la balance bénéfice-risque. Oui. Et pourtant, ça se diffuse.
Oui, c'est une bonne question. Alors, si je voulais même être... Que demande un journaliste qui vous posait une question qui fâche? C'est presque la vôtre. C'est même mieux que ça. C'est quoi? Vous faites un débat maintenant, mais ils sont déjà sur le marché. Si je veux, voilà, je fais faire les questions et les réponses. Oui. Non, mais je crois que c'est vrai pour l'innovation en général. Je ne connais pas d'innovation. Alors, ça ressort beaucoup avec les nanos, mais c'est générique. Je ne connais pas d'innovation où on... Voilà, on invente un truc, puis on se dit, bon, on va beaucoup réfléchir à tous les risques, à tous les impacts. On est dans un monde, on a toujours été dans un monde où lorsqu'on fait une innovation, il y a à la fois, il y a des risques, je dirais, pour le fabricant et le consommateur, qui a toujours eu ça. Donc la réglementation, au cours des siècles, s'est améliorée. Hein. Je vous rappelle quand même que les femmes en Égypte se maquillaient avec des sels de mercure. Hein. Il y a eu quelques progrès de fait dans la connaissance et la réglementation des risques. Mais malgré tout, c'est jamais parfait. C'est vrai dans les médicaments aussi. Je veux dire, il y a beaucoup d'essais qui sont faits, mais bon, on entend régulièrement qu'on en retire du marché. Donc il y a toujours un risque dans une innovation. Donc qu'on essaye de minimiser, mais qui est toujours là. Donc pour les nanos, ça prend une dimension particulière. Parce que finalement, je dirais, on a inventé un risque. C'est-à-dire finalement, le risque chimique avant était la norme. C'est-à-dire tel produit chimique présente tel danger. Donc il y avait une classification, je dirais, en termes de sécurité, avec la nature chimique des composants. On s'est rendu compte que maintenant, la nature chimique ne suffisait pas. Un produit inoffensif peut être toxique à l'échelle de nanoparticules. Donc ça va compliquer la toxicologie. Par exemple, les nanotubes de carbone, on se demande si ça ne peut pas être dangereux, comme en tant que fibre, par exemple. Alors que la réglementation dit l'espèce charbon n'est pas toxique, si vous voulez. Hein, voilà. Donc ça introduit une dimension supplémentaire, ce qui fait que maintenant qu'on a pris conscience de ça, on est amené à faire des recherches, si vous voulez, et on n'est pas parfaitement au carré comme on l'est en chimie. Alors, je voudrais quand même dire qu'en chimie, on n'est pas si au carré que ça, parce qu'il y a une norme européenne qui s'appelle REACH, hein, qui est sortie il y a quelques années, qui oblige tous les industriels à prouver, finalement, à étudier les produits chimiques qu'ils commercialisent. C'est assez récent, finalement. Il y a des milliers de produits chimiques pour lesquels la caractérisation est en cours. Et ça n'a pas été fait. Donc, il y a une progression des normes au cours du temps. Voilà. Et pour dire franchement, sur les nanoproduits, il y a encore des recherches en cours sur les effets toxiques et ça va prendre des années, c'est clair. Voilà. Donc, c'est le risque toxique, si vous voulez. Je dirais le progrès, je ne dis pas que je n'ai pas à m'excuser, je veux dire, moi je suis comme vous, je vous présente les choses, c'est je constate que le progrès, ça a toujours été finalement une évolution parallèle des produits sur le marché et des normes, si vous voulez, des recherches, des normes et réglementations. Il y a toujours une avancée qui se fait comme ça. Et l'évolution de la société actuelle, c'est de plus en plus, finalement, la prise en compte des risques. Bon, peut-être parfois de façon exagérée, je dirais même. Voilà. Il y a une deuxième dimension, quand même, qui est greffée à ça, c'est la perception du risque. C'est quelque chose qui me fascine aussi. Les risques ne sont pas du tout perçus, je dirais, de façon rationnelle. Je m'explique, si jamais je vous dis attention, il y a un réacteur qui fabrique des nanoparticules, il y a une fuite dans cette usine, ça va terroriser la population. Si vous avez un fumeur qui fume à côté de vous, il fabrique des quantités la combustion de la cigarette fait des nanoparticules, ça ne fait pas peur. Si vous voulez, donc la voiture tue des milliers de personnes, ça paraît normal, même si ça choque aussi d'autres, des citoyens, mais pour d'autres ça paraît presque un coup normal, si vous voulez. Donc le risque est perçu de façon variable. Donc c'est une difficulté supplémentaire. On arrive à prendre des surprécautions sur certains produits qui ne sont pas dangereux, tout en laissant sur le marché d'autres produits dangereux sans que ça gêne. Donc on a aussi au niveau de la société des disparités. Ouais. Il y a une différence quand même, c'est le risque est perçu comme acceptable en général quand les gens choisissent de se tuer. C'est-à-dire qu'un fumeur, un automobiliste, il dit je choisis, c'est mon problème. Par contre, quand vous achetez un produit... vous dites peut-être que l'industriel va me tuer parce que pour faire du profit, il a mis un nanobidule dans le produit, ça vous ne l'acceptez pas. Donc il y a une différence effectivement sur la façon dont ça se produit. Voilà. Il y a un deuxième risque. Alors je ne sais pas si on parle de risque, mais lorsqu'on innove, je vous l'ai montré dans un des transparents avec mes dents de scie, en fait, une innovation change la société. Alors ça, il est clair que lorsqu'on innove, jamais un inventeur ou un ensemble d'inventeurs s'est posé la question qu'est-ce que ça fait à la société ? Lorsqu'on s'est mis à travailler le charbon et l'acier, ou à inventer l'automobile, à mettre l'Internet sur pied, ça a bouleversé la société complètement. Mais ça ne sait, bon, c'est même comme la politique. Hein. Quand on prend une décision, je veux dire, on peut bouleverser la société à moyen terme sans le savoir. Donc, il y a aussi donc un risque, ou plutôt des conséquences qui ne sont pas étudiées, à un moment donné, ne peuvent pas l'être. Si vous voulez. L'innovation, c'est aussi une évolution de la société qu'on ne peut pas prédire.
Merci monsieur, je me demandais aussi quand même, vous parliez des consommateurs, est-ce qu'un consommateur est capable de lire une étiquette avec où est stipulé qu'il y a des nanos ? Alors pour moi, beaucoup de gens sont incapables.
Alors pour l'instant, il y en a. Non, c'est même plus compliqué que ça.
Il n'y a pas d'étiquette.
Ça va bouger, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. On est encore dans le domaine de la chimie. Hein, ce qui est la plupart des règlements, ça vous dit il y a tel ingrédient, il y a un numéro de code. En fait, ça réfère à une espèce chimique. C'est vrai pour les cosmétiques, c'est vrai pour l'agroalimentaire et pour tout. Donc il y a une réglementation sur la chimie et la présence d'espèces à l'échelle nanométrique n'a pas été mentionnée dans la réglementation actuelle. Actuellement, c'est plutôt du domaine du marketing. Donc dans certains pays, on en parle beaucoup parce que c'est formidable, ça fait vendre. Je crois y compris en Allemagne d'ailleurs. Dans d'autres pays, parfois il y en a parce qu'il y en a toujours eu, il faut, mais on ne s'en vante pas. Alors, ça va changer, je dirais, suite à ces débats publics. C'est, ça revient dans tous les débats, sous toutes les formes que j'ai vues de débats publics, soit des jurys citoyens, des grands débats. Une revendication, c'est justement un étiquetage, qui le disent. Alors, ça a posé comme des petits problèmes concrets. Hein. Il faudra bien préciser ce qu'on entend par étiquetage, parce que quand vous achetez un litre de lait, si vous voulez, les protéines sous forme de micelle, si vous voulez... si on dit vraiment tout ce qui est... Il n'y a aucun produit qui n'est pas structuré à l'échelle nanométrique. Donc, il faudrait un étiquetage. Je vous donne un exemple concret qui dise des produits qui ont été ajoutés et qui ne se détruisent pas dans l'organisme. Vous voyez, parce que si vous prenez une micelle de protéines qui vient du lait, elle est digérée. Par contre, si vous avez une petite particule de silice, on peut se poser la question. Donc, il faut... Ce qui est dans l'air du temps, effectivement, c'est un étiquetage. D'autre part, dans le Grenelle 1 de l'environnement, là, pour la première fois... Il y a eu quelques lignes là-dessus qui disaient que les producteurs devraient déclarer finalement les produits qu'ils fabriquent. Alors, c'est loin d'une loi, hein. Il faudrait sans doute des centaines de pages pour tout décrire l'implémentation, mais c'est la première fois au niveau national où on commence à faire référence à ça. Donc je vois un avenir raisonnablement proche où il y aura de nouvelles nomenclatures pour des choses à l'échelle nanométrique qu'on va ajouter. Alors, je ne sais pas s'il sera un impact, mais la demande, c'est surtout que ce soit affiché finalement.
Voilà. Et qu'on le comprenne aussi quand même, ça serait la moindre des choses.
Oui.
Et dernière question avant de passer à monsieur, vous avez parlé de l'impact de l'argent qui est impulsé dans les nanotechnologies. Il apparaît en effet que des laboratoires font des recherches en nanotechnologies aussi parce que ça les rend capables de faire des dossiers, de récupérer de l'argent. Hein. Oui. Donc il y a beaucoup d'argent d'investi, on voit ce qui se passe à Grenoble, et dans différentes villes de France, il y a eu aussi les fameux débats qui n'ont pas pu pour certaines villes avoir lieu. Donc, est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait autant d'argent d'investi dans les nanotechnologies empêchera, par contre, certaines disciplines d'émerger ? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les différentes disciplines ? Enfin, c'est ce que disent certains scientifiques qui, eux, ne font pas de nanotechnologies.
Je comprends très bien. Je vais le dire d'autant plus franchement. Là, quand j'étais à l'ANR, je m'occupais j'étais un chef d'un département qui contenait ces programmes. Donc voilà, je vous le dis quand même que si j'ai une histoire, donc la réponse que je vous fais peut être liée à ça. Hein. Donc déjà, pour fixer les idées, effectivement, dans l'imaginaire, on parle aussi des sommes colossales investies dans la technologie. Alors, vous regarderez les chiffres sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. C'est 1 ou 2% des budgets de recherche dans le monde. Hein, c'est, les technologies de l'information, c'est des dizaines de pourcents. En France, je crois qu'il y a un rapport 50 entre ce qu'on fait en nano et ce qu'on fait en... J'avais les deux dans mon département. Donc il faut remettre les choses, les recadrer à leur place. Donc il y a beaucoup de battages, on en parle beaucoup, bon, mais ça n'est pas c'est des budgets qui se mesurent en pourcents par rapport à toutes les autres disciplines confondues. Il faut déjà le savoir. Voilà. Deuxièmement, donc une agence comme l'ANR, d'ailleurs suite à ce genre de remarques, mais c'est vrai pour d'autres raisons aussi, des agences comme l'ANR pour l'instant ont augmenté ce qu'ils appellent leur programme blanc, c'est-à-dire que l'ANR finance des projets de recherche sans toute discipline confondue, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire tel ou tel domaine. Donc cette proportion a augmenté. Donc à l'Agence nationale de la recherche, maintenant la moitié des financements vont à des projets de recherche, quelle que soit leur discipline. Il y a moins de fléchage qu'avant. Voilà.
Oui, je ne voudrais pas empiéter sur la présentation de William Dapp tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur la notion de bénéfices et de risques. Et au travers d'une question de savoir quelle est la part actuellement des budgets recherche qui sont consacrés justement à l'évaluation des risques. Parce que on voit actuellement une diffusion extrêmement rapide des nanotechnologies dans tous les domaines, vous l'avez bien montré. Vous montrez également de façon fort bien que ce sont des coûts extrêmement élevés qui nécessite des investissements importants. Donc on voit bien un phénomène de concentration industrielle qui est nécessaire à leur mise en place. Et donc la nécessité pour avoir des retours sur bénéfices financiers cette fois-ci, une diffusion dans les circuits de consommation extrêmement élevée. Parallèlement, la notion de risque n'est pas, précisée, dans la mesure où, les problèmes de métrologie ne sont pas connus, ne sont pas en tout cas éclairés, et encore moins les risques. Bon, vous prenez l'exemple de l'automobile, et on va juste très rapidement, pour mieux comprendre le différentiel qui existe entre risque perçu et risque réel, vous prenez l'exemple de l'automobile. Personne ne sait, en prenant une voiture, tout le monde sait qu'il y a un risque effectivement de mourir d'un accident de la route, mais personne ne sait que ce risque-là, il est pour soi-même. En prenant l'automobile, sinon on ne prend pas la voiture immédiatement. Or là, nous avons affaire à des risques faibles qui concernent une population extrêmement importante, avec une notion supplémentaire qui est le risque, la pathologie va être différée dans le temps. Donc des risques à long terme. C'est complètement différent, je dirais, du risque de botulisme avec la conserve de pâté qu'on faisait autrefois, même si globalement, on avait effectivement beaucoup plus de morts globalement. Il n'empêche que les gens peuvent avoir le sentiment, et c'est là la notion de la perception, d'un risque qui a été introduit dans son propre organisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus sur une notion de risque, je dirais, un peu aléatoire, mais forcément d'un risque déterminisme, c'est-à-dire qu'une force connue, responsable, a introduit volontairement ou involontairement une pathologie dans des organismes, et ça à une échelle importante. Donc je crois que ma question sur la part du budget consacrée à la recherche des risques liés aux nanotechnologies, alors quelquefois, vous l'avez bien montré de façon très hétéroclite, il y a des questions qui ne se posent pas dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, je pense que c'est une question fondamentale pour pouvoir faire admettre les choses.
Vous avez tout à fait raison. Alors, peut-être, vous avez dit beaucoup de choses. Je ne vais peut-être pas répondre à tout. Là, c'était très intéressant. Je vais faire une remarque sur l'aspect long terme et court terme. Je ne vois vraiment pas de différence énorme avec la chimie. Si vous voulez. Le cas des métaux lourds est très proche. Hein. Je veux dire, il y a le cas du plomb. Hein. Il y a dans le passé, il y a eu beaucoup d'exemples dramatiques de produits qu'on a mis sur le marché. J'ai parlé de l'amiante, mais c'est un risque à très long terme. C'est bien ça, d'ailleurs, qui a été une des causes du problème. Le plomb aussi. Hein. C'est tout ce qui est métaux lourds, ça agit lentement sur l'organisme. Plomb, mercure, il y a beaucoup de produits donc, avec ça. Donc, on retrouve des questions proches de la chimie quand même. Si vous voulez, la chimie, mais botulisme, c'est biologique, ça va vite. Hein. Une bactérie, ça, dans les 48 heures, ça fait quelque chose, c'est rare. Enfin bon, d'être infecté à long terme. Voilà. Donc la question du long terme est assez proche finalement. Et effectivement, les nanoparticules, c'est plutôt perçu comme un risque à long terme qu'à une toxicité aiguë en général. Voilà, donc c'est assez proche. Alors, sur les budgets-risques, c'est une question mais qu'on pose évidemment systématiquement. Il est un petit peu difficile d'y répondre. Je peux vous donner des chiffres, mais après vous expliquer pourquoi c'est quelque chose. Quand j'étais à l'ANR, très, très vite, j'ai milité aussi pour qu'on lance un programme sur ce sujet-là en parallèle. Donc il était tantôt rattaché au programme nano, tantôt il a été rattaché au programme sur les risques en général, en mélangeant la chimie, les nanos. Donc c'est finalement comme ça que ça a terminé, parce que c'est plus logique. Mais je faisais le ratio, typiquement, il y avait 4-5% du budget qui était mis sur la recherche sur les risques. Donc 4% de programme risque, donc divisé, 4 divisé par 100, tout nano, tout sujet confondu. Mais quand vous mettez 100, vous additionnez des choses extrêmement variées. Vous mettez des gens qui font des circuits intégrés, qui ne sont pas vraiment toxiques. Vous mettez aussi des gens qui font de la recherche sur la métrologie, qui peut servir à étudier les risques. Donc en fait, le numérateur est connu, c'est 4, mais ce que vous mettez en bas, quand vous mettez 100, vous êtes sûr de ne pas truander, vous mettez tout. Mais on ne peut pas dire qu'il y a 4%, 4 études de risque et 100 de projets dangereux. Donc en fait, on ne sait pas bien comment mesurer ça, mais il y a une norme mondiale. Alors on pourrait mettre plus sur le sujet, parce que c'est des questions qu'on s'est posées au niveau national. Il y a un écueil, parce que ce n'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème de conséquences. D'ailleurs, je peux faire un appel à Poitiers, un appel au peuple. C'est un problème de... La science, il y a une idée reçue dans le public que, finalement, on a un problème, on va mettre des scientifiques sur le sujet, ils vont trouver. Mais en général, il faut avoir des gens compétents dans un domaine. Et en toxicologie, de façon générale en Europe, on ne peut pas dire qu'il y a des bataillons de spécialistes dans le domaine. Donc, c'est des choses qui croissent assez lentement, parce que pour faire croître une compétence de mes scientifiques, c'est facilement 10 ans, si vous voulez. Donc, c'est pas l'argent qui manque. L'ANR fait des appels à projets, mais on finance quand même que des... Ça sert à rien, parce qu'on pourrait aussi faire de l'affichage. Même s'il y a des projets complètement nuls, on pourrait les financer. Comme ça, on ferait plaisir aux gens en leur disant, voilà, on a mis des millions d'euros. Mais si on veut faire financer des recherches qui servent à quelque chose, qui ont des chances d'aboutir, on est limité aussi par le nombre de projets, donc par le nombre de chercheurs capables de les porter. Mais c'est une question générale sur les risques, c'est-à-dire... Ça change petit à petit, c'est d'avoir aussi des chercheurs qui s'intéressent à cet aspect-là. Voilà. C'est-à-dire, c'est malheureusement plus compliqué que l'argent, c'est aussi une question de politique scientifique au niveau national et organismes, hein, c'est de maintenir des compétences dans tel ou tel domaine.
Oui. Merci beaucoup, monsieur Laurent. C'était très intéressant, mais on est obligé un petit peu de forcer, puisque si on veut rester dans le cadre, ça va être difficile. Alors, je vais passer la parole à Octave Enea. Octave Enea est chercheur CNRS. Il a aussi la passion de fabriquer des films, avec son fils, d'ailleurs. Et il n'y a que Octave qui est là aujourd'hui. Et ce film va vous présenter quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par M. Laurent, c'est-à-dire la microscopie de proximité. Donc, il va vous montrer, avec cette technique qui a été inventée il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 50 ans, il va vous montrer comment on peut voir certaines choses. Octave, tu as la parole.
Merci de m'avoir invité. Je vais commencer d'abord par vous dire quelques mots. Je vais vous parler des microscopies de proximité, qui sont les outils qui ont permis de découvrir le nanomonde. C'était une invention assez révolutionnaire, parce que si vous prenez par exemple un objet transparent, et vous le faites traverser par une onde plane, la lumière, vous ne verrez absolument pas le champ proche. Donc, cette invention qui faisait qu'on pouvait explorer ce champ proche à l'échelle du nanomètre, c'était quelque chose de très intéressant. La preuve est que les deux chercheurs, Bini et Guerrero, qui ont trouvé ça en 81, ont eu le prix Nobel en 86, c'est-à-dire très rapidement. Et en même année, c'est l'inventeur de microscopie électronique, Ruschka, qui a eu le prix Nobel aussi. Il avait déjà 80 ans. Donc, Binig, il avait 39 ans à l'époque. Pour un prix Nobel, c'est très jeune. Donc, c'était quelque chose qui était très intéressant, très, disons, spectaculaire, ces microscopies de champs proches. Pas grand monde connaissait ça. Et moi, j'ai découvert pas tout à fait par hasard. Je me trouvais en visite dans un laboratoire d'un électrochimiste à Stanford, un professeur qui m'avait invité. Et dans son laboratoire, il y avait un jeune qui empilait différentes
couches de différents matériaux pour amortir les vibrations. Et il faisait un microscope, on ne voyait même pas la tête ce que c'était, et sur l'écran du microscope, on voyait des atomes. Alors, c'était assez spectaculaire. Et on m'a expliqué qu'en fait, c'était un microscope à effet de tunnel qu'il essayait de faire, et qu'à côté, il y avait un autre laboratoire dirigé par le professeur Quaid, qui était co-inventeur d'un microscope qui s'appelait Atomic Force Microscopy, microscope de force atomique. Alors, j'ai découvert tout à fait ça. J'ai visité bien sûr le laboratoire de Quaid dans l'occasion, j'ai discuté avec ses collaborateurs et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que c'était une sorte de vague qui commençait et je me suis dit que c'était très intéressant de surfer sur cette vague-là, près du Pacifique de plus. Alors, le problème était qu'un chercheur qui fait un physico-chimiste qui est dans un laboratoire de catalyse, qui fait de la recherche liée à la catalyse, c'est pas évident de surfer sur des microscopies de proximité. Il se trouve qu'on faisait à cette époque-là des catalyseurs qui étaient préparés par pulvérisation et qui avaient des propriétés intéressantes, dont on voulait connaître la morphologie. On avait fait quelques communications en 90, parce qu'en 87, donc, c'était cette histoire-là, de découverte dans Californie de ces microscopes-là. Entre-temps, j'ai pris des contacts avec les gens qui commençaient à commercialiser ces microscopes-là. Donc, c'était des représentants de Digital Instruments qui étaient basés en Californie et qui faisait par exemple des microscopes qui s'appelaient Nanoscope 2 et on voyait des images comme vous voyez ici, des images atomiques à l'échelle atomique. Bon, donc en les contactant, on a pu commencer à voir un peu plus, faire des mesures, des morphologies sur nos échantillons et même faire une publication avec un des collègues qui venait du laboratoire dirigé par le M. Desoyers, avec André Nodon, sur nos catalyseurs, étudiés à la fois par réflectométrie X dans son laboratoire et par microscopie avec l'aide de ceux qui faisaient ces microscopes-là, qui voulaient les commercialiser, les utiliser. Et donc, ça m'a permis de présenter une communication à un congrès particulier de physiciens qui était fait à Interlaken, en Suisse, en 1991, à STM 91, ça s'appelait. Et là, rencontrer bien sûr beaucoup de jeunes, parce que c'était un congrès très, très différent de ceux qui étaient assez guindés dans l'électrochimie. Et c'était très cool, c'était des jeunes qui présentaient des communications en jean. Et ils étaient très, disons, très pointus. Donc j'ai connu pas mal de monde là-bas. Ce qui m'a permis après de visiter certains entreprises qui fabriquaient ces microscopes-là, comme par exemple Topometrix à Tucson, lors d'un congrès où je participais à Phoenix, Arizona, et même tenir un séminaire devant les physiciens et les chimistes de l'Université de Poitiers sur un sujet qui, bon, pour les chimistes, n'était pas quelque chose de très commun sur des microscopies de proximité, AFM, ainsi de suite. Et donc, continuer les recherches, combiner les recherches sur nos catalyseurs avec des différents dépôts de îlots d'or, d'argent ou platine, étudiés à la fois par réflectométrie et par nanoscopie, avec microscopie à sonde locale, et présenter donc des communications à différents congrès et des séminaires dans différents pays, différents laboratoires qui m'invitaient, donc en Turquie, en Italie, à Bruxelles, ainsi de suite. Et en même temps, me poser quand même certaines questions, parce que sur les images auxquelles j'avais accès, parce que bon, avec les relations qu'on avait avec les fabricants des microscopes qui étaient très contents qu'un chercheur parle de leur instrument, parce que ça faisait quand même une publicité qu'ils ne pouvaient pas faire, parce qu'ils faisaient des démonstrations de ces échantillons du laboratoire qui n'étaient pas forcément très très bien, disons, parlant pour explorer les performances de ces microscopes-là. Bon, quand même, on se posait quand même certaines questions, parce que, bon, par exemple, ici, ce sont des atomes, on disait des atomes sur une surface. Je vous montre ça comme ça, vous verrez beaucoup mieux dans le film. Et c'est pourquoi je me suis posé quand même la question qu'il faut lier ça à l'atome. Par exemple, ça, c'est des rangées qu'on voyait dans la microscopie avec des ça a l'air d'atomes, mais c'est du mica. Alors, quels sont ces atomes-là? Donc, je me posais la question quand même. Et en me posant cette question, on s'est dit il faut quand même reposer les bases, regarder ce que c'est un atome, refaire des orbitales, des densités électroniques et tout ça. Et pour ça, bon, il fallait trouver des gens qui puissent faire de l'infographie à l'époque. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous dans la salle qui connaissent les ordinateurs Amiga. Il y avait ces ordinateurs-là qui étaient utilisés pour faire de l'infographie, pour des dessins. Ça demandait des heures pour faire un dessin qui maintenant demande quelques secondes. Et donc, on a dû faire un premier film, Univers d'atomes, sur lequel on montrait ces exploits de microscopie de proximité, quelques-uns de leurs principes qui seront développés dans d'autres films plus tard, mais aussi se poser la question qu'est-ce qu'on voit en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le professeur Lewis, qui avait changé en tout temps de son laboratoire de Stanford à Caltech, l'institut à Los Angeles, avait aussi entamé un programme éducatif qui s'appelait CAP, Chemistry Animation Project, où on faisait en image de synthèse quelque chose de très intéressant, comment les atomes réagissent, comment ils sont faits les orbitales et tout. Et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès à travers le monde, a été diffusé dans une centaine de pays, même au Japon et tout. Et donc, ces projets ont été donc un petit peu en parallèle avec ce que nous avons fait. Je vais commencer par présenter le premier film, Univers d'atomes, qui a été fait pas loin d'ici, sur un montage institutionnel Umatic prêté la nuit par le LIC, un organisme qui travaille au Futuroscope. Nous avons donc fait ça en 2-3 nuits, avec de la musique improvisée par un collègue pour lequel il a fallu prendre le piano vers minuit, le rendre vers 2h du matin. Si vous dire les conditions dans lesquelles on a travaillé, parce que c'était sans aucun budget, bien sûr. Et les jeunes qui ont fait l'animation, les images que vous n'allez pas voir, parce que moi je montre juste les principes, quelques fragments, et ils ont fait ça pour se faire connaître. Ils avaient besoin d'un projet, et c'est pour ça. Merci pour démarrer. Démarrer les scènes.
redescendre l'échelle de dimension jusqu'aux atomes. Permettent d'imager les surfaces de nombreux matériaux fluides, dans l'air ou dans l'air, et même de suivre en temps réel des réactions chimiques ou biochimiques. Mais encore, en imposant des interactions suffisamment fortes entre la pointe et l'échantillon, l'on peut modifier de manière contrôlée la surface de l'air. L'on peut ainsi écrire ou décider avec des atomes ou des amas d'atomes. Une nouvelle révolution industrielle commence, celle des nanotechnologies, pour un univers d'atomes au service des hommes.
Bon, donc on va interrompre là. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, la question se pose, qu'est-ce qu'un atome ? C'est un fragment ici. Et ensuite, dans le film, on montre tous les orbitales. On explique exactement en image de synthèse qu'est-ce que c'est les atomes. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut voir ? Suite à ce premier film, bon, dont vous avez remarqué sans doute que c'était celui d'un débutant, j'ai continué à donc, contribuer à la vulgarisation de ces nanotechnologies en donnant des séminaires à droite à gauche lors de mes déplacements pour différents congrès. Et ça m'a amené, après le Canada, à visiter des laboratoires qui étaient en Californie de nouveau, à Berkeley, où j'ai pu filmer la contribution d'un chercheur qui travaillait sur la microscopie de proximité sur l'ADN, des objets biologiques. Aussi à Santa Barbara, le professeur Hansma qui travaille aussi sur la fibrine, sur la coagulation de la fibrine, pour voir comment le sang... Donc, première image qu'on pouvait voir sur ce sujet-là. Et aussi sur visiter le laboratoire IBM où Don Eigler avait fait bouger des atomes pour écrire des sigles que vous avez remarqué, IBM et d'autres que vous allez voir dans le film, et qui avait un succès médiatique terrible. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le visiter. Et ça m'a permis d'avoir des informations qui ont contribué à la réalisation d'un second film, Dessin atomique, que vous allez voir par la suite. Et donc dans lequel volontairement, puisque on ne peut pas le montrer entièrement, il est 26 minutes, on a pris juste la partie initiale avec le principe de ces microscopes là pour que vous voyez exactement comment ça marche, sans garder les fragments où Quaid, le co-inventeur de AFM, parle, ou Hansma, celui qui avait étudié la fibrine, parle aussi. Merci pour la deuxième.
Et excuse-moi de prendre un peu la parole. On est limité par le temps. Ouais. Donc, je sais qu'on a commencé en retard, mais enfin, tu accélères un petit peu.
Ouais. Merci.
et pouvoir ainsi stocker et transmettre un maximum d'informations. Comme la nature le fait si bien, en écrivant ou en utilisant à tout instant le code génétique de chaque être vivant. C'est en 1989 seulement que l'homme a réussi, pour la première fois, à disposer quelques atomes dans l'ordre souhaité. C'était du xénon sur une surface monocristalline. L'écriture à l'échelle atomique était née. Cela se passait en Californie, près de la Silicon Valley, dans un centre de recherche d'IBM. Là, des centaines d'informaticiens, de chimistes, de physiciens et de mathématiciens, aidés par une armée d'ingénieurs et de techniciens, cherchent activement comment stocker, traiter ou imprimer le plus grand nombre possible d'informations à la seconde. Le magicien des atomes est l'un de ces scientifiques. Il s'appelle Don Eagle. Et il sait comment mouvoir les atomes et les placer là où il veut, au moyen d'un microscope à effet de tunnel, en abrégé STM, Scanning Tunnel Microscope. Le STM est un appareil inventé en 1982 dans un autre laboratoire IBM, près de Zurich, par Röhrer et Benek, à qui il a valu le prix Nobel. Le principe de ce microscope révolutionnaire repose sur l'effet de tunnel, par lequel un très faible courant peut passer entre un échantillon conducteur et une pointe conductrice extrêmement effilée, qui se trouve polarisée à moins d'un nanomètre de sa surface. Dans un métal, les électrons sont délocalisés en un fluide qui forme des ondes autour des défauts se trouve à la surface. Là où le nuage électronique peut se déformer plus facilement, le courant tunnel passe, nous indiquant ainsi où se trouve la position de certains atomes. La topographie de la surface est reproduite en image grâce à une pointe qu'on balaye très vite au ciel en la maintenant à hauteur constante au moyen de céramiques piézoélectriques. On peut aussi, et c'est techniquement plus facile, maintenir constant le courant tunnel et mesurer la distance entre pointe et échantillon. Cela conduit à une image similaire. Mais, à la température ordinaire et dans un environnement réactif tel que l'air, les atomes s'agitent et réagissent sans cesse. Pour les ordonner, il faut les tenir sous vide et les figer par le froid, à moins 259 degrés Celsius, au moyen d'hélium liquide. Dans ce but, Don Eagle et son équipe ont construit un STM ultra perfectionné, dont la stabilité et la précision sont telles qu'un même atome peut être étudié pendant plusieurs mois avec une résolution supérieure au millième de son diamètre. Comment ont-ils procédé pour écrire des lettres avec des atomes? Tout d'abord, ils ont visualisé la surface en faisant balayer la pointe à une hauteur de 2 ou 3 diamètres atomiques, sans déranger les atomes, afin de choisir celui qui allait être déplacé. Ensuite, ils ont approché la pointe de la surface et ont augmenté la force d'interaction exercée sur un atome absorbé jusqu'à le faire glisser vers l'endroit du ciel. Lâcher ensuite par une impulsion électrique de signe opposé juste au-dessus de l'emplacement. Dès lors, il leur a été possible de de mettre les atomes en vienne ou en rond, et de voir ainsi l'arrangement et l'existence qu'ils donnent. Un monde nouveau s'ouvrit à leurs yeux, dans lequel des atomes de xénon, gaz inerte, étaient cependant attirés les uns vers les autres, et dans lequel on pouvait soit coucher, soit poser debout, des molécules d'oxyde de carbone pour former des îlots ou des molécules de forme nanoïde. En maîtrisant les interactions mutuelles des atomes et en utilisant la pointe comme une grue miniature, Dorn Hingler et son équipe ont pu construire de petites structures atomiques bi- ou tridimensionnelles et même réaliser l'interrupteur électrique le plus petit qui soit. Comment concevoir des micro-circuits électroniques ou des mémoires ultra-miniatures. Mais comment en produire en grande quantité, dans un temps raisonnable et à un prix abordable? De tels impératifs industriels, difficiles à atteindre avec quelques atomes, sont plus abordables au moyen d'amas d'atomes. En effet, chaque îlot formé d'un millier d'atomes peut constituer un bit, unité élémentaire des mémoires informatiques. Déposer très rapidement de nombreux îlots sur une surface mille fois plus petite que celle d'un timbre poste, c'est augmenter la possibilité d'y stocker des informations. C'est l'équipe animée par Mamin qui a mis au point un STM ultra rapide capable d'écrire en moins de 2 secondes le cycle de son laboratoire. Des îlots d'or, stables, résistants à l'échauffement, déposés de manière ordonnée et reproduite. Faire cela à une vitesse 500 fois plus grande que 3 ans auparavant, c'est une avancée technologique importante, mais pas encore suffisante pour remplacer les mémoires magnétiques actuelles, faciles à écrire, à effacer ou lire, en utilisant plus de 150 millibits par ordinateur.
Voilà ici présenté l'image d'une bande VHS où nous avons sur notre gauche la topographie de cette bande et sur la droite la trace des domaines magnétiques, des informations magnétiques qui ont été stockées sur cette bande. Et on voit qu'on a complètement ici déconvolué l'information de topographie et l'information magnétique. De la même manière, voilà ici présenté le même type d'information, donc encore sur notre gauche la topographie et sur notre droite les domaines magnétiques, sur une disquette qui est ici une disquette 5 pouces 1 quart, haute densité. Alors même chose, on a ici la topographie, on voit même ici la trace, les défauts qui ont été induits par la trace de la tête magnétique, et ici les domaines. Un dernier exemple dans le même ordre d'idées. Voici ici un disque dur, donc le disque dur qu'on va trouver, que vous allez trouver dans votre ordinateur, où nous avons la même chose, ici la topographie de la surface, et ici les informations magnétiques qui ont été ici stockées.
Les images récemment obtenues avec un nanoscope 3, ayant 2 sondes locales différentes, illustrent bien les énormes possibilités d'image qu'ont les microscopes à monde.
Bon, je pense qu'on va devoir dépêcher un petit peu. Il y a juste un petit fragment, le chapitre 5 peut-être, pour montrer un microscope fabriqué par les chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires à Jussieu, à OCEA, où on fabriquait les microscopes sur le plan local, des microscopes adaptés à leur propre recherche. Et là, vous allez voir un de ces microscopes-là, donc chapitre 5... 2 minutes et puis on doit arrêter parce que non, ça c'est voilà.
C'est
peut-être le suivant.
Non, non, suivant.
Là encore, les microscopies à sonde locale.
Suivant, suivant, chapitre suivant.
Étable que l'homme apprit à extraire, à fondre et à utiliser fut le cuivre. Les objets en cuivre étaient en surface perdissaient et se détruisaient trop vite. En effet, le cuivre est un élément tellement réactif qu'un liquide très poussé doit être utilisé pour obtenir l'image de sa surface à l'échelle atomique. Ça, c'est un microscope avec un tunnel qui permet de travailler à température variable. Donc, il est suspendu sur des ressorts, la plateforme suspendue pour les vibrations. La pointe vient ici. Donc, elle est déplacée par cet objet-là qui est un moteur piézoélectrique. Elle est montée sur un tube piézoélectrique qui permet de balayer la pointe devant la surface. L'échantillon vient se loger dans cette partie, dans cet emplacement ici, là. De la pointe. Donc il est solidaire du bloc de cuivre qui est en dessous ici. Et ça, c'est une pièce en cuivre qui permet de refroidir le porte-échantillon à la température de l'azote. Pour refroidir, on vient plaquer le porte-échantillon, le bloc de cuivre, sur cette pièce en refroidi. Entre ces pièces-là, on met de l'azote liquide dans le réservoir qui est là et ça refroidit les choses. En principe, on peut travailler en dessous de la température ambiante. Donc ça, c'est l'électronique qui permet de contrôler le microscope, le piézoélectrique et puis la boucle de régulation du courant tunnel. Et puis un ordinateur qui permet de faire l'acquisition du signal, donc les traces qui apparaissent ici. L'image de la surface. Et donc voilà, ça c'est une image d'une microscopie tunnel d'une surface de cuivre qui a été bombardée sous vide avec des ions argon. Et quand on fait ça sur une surface de cuivre, ça crée à la surface, ça enlève des atomes, donc ça crée des lacunes à la surface du cristal. Ces lacunes peuvent diffuser à température ambiante et forment des îlots de lacunes. Donc les taches noires qu'on voit sur cette image sont des dépressions qui font une hauteur atomique, qui sont des îlots de lacunes. Alors on voit aussi sur cette image un certain nombre de marches atomiques qui viennent de la rugosité résiduelle, qui sont de bas en haut, donc des îlots de lacunes, et puis il y a également, quand on bombarde, on arrache des atomes, les atomes peuvent diffuser aussi et créer des îlots d'anatomes. Il y a le petit îlot, ce qui est en couleur claire, c'est des îlots d'atomes, et ce qui est en couleur sombre, c'est des îlots de lacunes.
Voilà, je pense qu'on peut interrompre là. Ça fait partie d'un film qui s'appelle Interface. C'est un film de 30 minutes. Vous avez beaucoup d'autres exemples. Ce sont des films que vous pouvez consulter sur Internet. Ils sont en ligne sur le site www.compsy.fr. Donc, il y a d'autres films sur les microscopies de proximité, comme par exemple Chemin d'électrons sur les supraconducteurs. Croissance cristalline, sur la croissance des cristaux, des films de 60 minutes. Aussi, nanowriting, en anglais, qui est sur les écritures à l'échelle du nanomètre. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Octave, de nous avoir montré ce film. Alors, vous voyez, tout à l'heure, Monsieur Laurent, vous avez dit qu'à partir d'une certaine gamme, au-dessous du visible, on est obligé d'utiliser des techniques nouvelles. et vous a présenté ici ce qu'on était capable de faire en microscopie atomique. Merci aussi de nous avoir montré la genèse de l'affaire. Vous voyez que ça a commencé autour des années 80 et que ça a progressé. Les dernières images que tu nous as données, c'est 93.
Ça montre bien comment étaient les ordinateurs à l'époque. Je vous ai dit que je voulais vous mettre dans l'ambiance de l'époque.
Donc ça nous a montré en 10 ans comment. Alors actuellement, il doit y avoir encore des progrès. Peut-être 17. Que tu pourrais nous dire actuellement où ça en est. Tu suis toujours l'affaire?
Ah non, j'ai tourné la page. Moi, je suis à la retraite. Je me suis mis dans le bâtiment et autre chose.
Bon, je passe la parole à la salle.
Moi, c'est juste un commentaire parce que Octave ne le dira pas de lui-même. Moi, je le remercie beaucoup d'avoir œuvré pendant sa vie active en réalisant ses films. Il a participé à de nombreux festivals de films scientifiques. Il a été primé. Et donc, je crois qu'on lui doit ça, en tout cas.
Il y a même eu une manifestation ici, oui, présentée à Mendes France sur le micronote, sur toutes les microscopies. Bon, c'était mon fils qui présentait ça, bon, avec des images qu'on avait de tous les types de microscopies optiques, mais aussi de proximité.
Est-ce qu'il y a des questions? Je suis là, monsieur. Non, on me cherche, pardon. Je préfère me chercher.
Ma question, elle est plus à Octave ou peut-être à quelqu'un qui a utilisé ou qui voit, à des gens qui voient des microscopes actuels. Quelle a été la grosse évolution ces dernières années dans ce domaine-là? Est-ce que c'est la miniaturisation des appareils
Non, je pense que miniaturiser plus que le nanoscope, c'était pas nécessaire. Bon, il y a eu une. L'avantage de ces microscopes était du fait aussi que l'informatique s'était développée. On avait tout de suite des images très rapidement, en couleur. On pouvait explorer la définition, on pouvait les mettre en 3D. Donc c'était très attrayant du point de vue visuel, ce qui a permis de faire des films. Mais du point de vue miniaturisation, ce n'était pas nécessaire. Vous avez vu des microscopes qui étaient relativement petits, ils se déplaçaient avec. C'est impensable de faire ça avec un microscope électronique. De plus, il fallait des préparations assez longues pour étudier les échantillons, alors qu'avec les microscopies de proximité, il ne fallait pas de préparation. On pouvait étudier des objets biologiques en leur milieu, comme par exemple, je sais pas, des ADN. Certains ont étudié des cellules, ainsi de suite. Donc, dans le milieu liquide, je ne parle pas de la variation de température entre la température de l'azote liquide, voire beaucoup moins, proche du zéro absolu, et à des températures élevées, plus élevées que l'ordinaire. Donc, ça donnait des possibilités assez intéressante d'exploration rapidement. La miniaturisation, autant que je connais, c'était pas l'objet. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été faites. C'est étudier des processus biologiques in vivo. Binnig a fait des choses qui étaient, disons, dans un liquide biologique. On pouvait voir la réplication de certaines molécules biologiques. Voilà.
Oui. Au début, vous avez posé une question, vous avez montré les atomes, vous avez posé une question, mais quelle est la nature des atomes? Et puis après, dans votre développement, effectivement, on a vu la nature des atomes, mais il me manque un lien entre les deux. Par quel moyen est-ce que ça s'apparente à ce qu'on fait, par exemple, à la sonde de Castor? Comment est-ce qu'on identifie la nature chimique des atomes que l'on voit?
Eh bien, dans le film Croissance cristalline, dont j'avais préparé un morceau, mais je crains que ça va être difficile de le passer, on explique clairement qu'il faut interpréter les images qu'on obtient par le microscope de proximité en connexion avec les images de cristallographie et des densités électroniques. C'est comme ça qu'on peut interpréter correctement ce qu'on voit. Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, si on voit des petites boules comme ça pour une surface de mica, ce n'est pas forcément des atomes. Donc, c'est d'où la question, qu'est-ce qu'on voyait ? Autant pour des objets comme ça, quand on voit un CD ou un disque compact, c'est évident. Hein, c'est la morphologie, mais ça, ce n'est pas à l'échelle du nano, ça. Hein? Donc, pour les atomes, il faut penser aux densités électroniques. Il faut, certaines fois, par exemple, pour le graphite, il y a des atomes qui sont en dessous, qui donnent des ondes électroniques qui se voient à surface. Donc, ce n'est pas évident. Et c'est expliqué dans un film Croissance cristalline.
Bon, merci à vous. Merci. On va faire une pause de 10 minutes. À tout à l'heure.